Vous allez entendre le message L'âge des fêches, prêché par William Marion Branham le 5 décembre 1960 à Jeffersonville, Indiana. Le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il ici le conducteur d'une Dodge nouveau modèle, immatriculée WX2129, qui est garé de l'autre côté de la rue? Il a laissé sa lumière, ses phares et tout allumé. Et si le propriétaire de cette voiture est ici, eh bien, allez éteindre vos phares. Elle est juste du côté gauche de la rue, sur la 8e rue. Je suppose que c'est une immatriculation de New Albany, WX2129, une Dodge rouge, une Dodge nouveau modèle. C'est sûrement un modèle 59-60 ou de ces années-là. Et je ne savais pas si c'était quelqu'un ici ou quelqu'un qui venait juste d'ailleurs. Très bien. C'était bien ça. Oh, c'est une bonne chose. Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a que les femmes qui oublient ça parce que ça m'arrive aussi. Eh bien, il est certainement bon d'être de retour ce soir dans la réunion et d'avoir ce beau temps de communion ensemble autour de la parole. Est-ce que vous appréciez cela? Oh, c'est vrai, nous passons simplement un merveilleux, merveilleux moment. Et maintenant, nous avons confiance que Dieu va nous aider à continuer. Maintenant, mon frère est allé chercher un tableau noir ici, mais il est trop petit. Il n'est juste pas assez haut. Donc demain, eh bien, je vais essayer de l'accrocher ici, de le balancer au-dessus, de le placer comme ça. Je veux dessiner certaines choses que j'aimerais expliquer pour que vous puissiez, pour simplement être sûr que vous le compreniez vraiment bien. Il y avait hier soir, ou c'était hier, ma petite fille Sarah, c'était plutôt mignon. Maman et moi regardions son petit papier, elle prenait des notes. Et elle avait tout noté parfaitement, Ésaïe et Matthieu et tout. Et tout au bas du papier, elle avait noté. Et la mort, la tombe n'a plus de victoire en elle, et la mort a perdu son aiguillon. Elle a environ 7 ans. Et au lieu d'avoir la révélation, elle a dit le livre des révolutions. Eh bien, ça montre quand même qu'ils sont intéressés à essayer d'obtenir quelque chose, n'est-ce pas? Je pense que la petite fille de Frère Collins, elle est assise là-bas et elles ont écrit révolution. Frère Neville dit jour de révolution. Il est d'accord avec elle. Je pense que nous devons tous le faire. Eh bien, nous passons vraiment un très bon moment. Oh là là, le Seigneur bénit. Je suis allé étudier ce matin dans une pièce juste après avoir conduit les enfants à l'école et j'en suis sorti il y a quelques instants. J'ai passé un moment merveilleux. Hier soir, j'ai étudié un peu tard aussi et vers 2h30 du matin, des gens sont descendus du nord. Ils m'ont réveillé pour prier pour une petite fille qui se mourait. Et je suis sûr que le Seigneur la laissera se rétablir. Ils étaient venus depuis Bedford, dans l'Indiana, pour demander que l'on prie pour la petite fille. Là, deux hommes qui étaient à la réunion hier soir et ont conduit jusque là-bas, puis tout le chemin pour redescendre, puis de nouveau tout le chemin de retour. Ils ont probablement conduit toute la nuit. Et donc, c'est bon de savoir que les gens ont ce genre de confiance et croient en Dieu. Oh, c'est un jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Et nous attendons maintenant d'en apprendre simplement de plus en plus sur ces âges de l'Église. Maintenant, nous essayons de commencer un peu tôt chaque soir pour que nous puissions sortir de bonne heure. Préférez-vous cela? Et cela permet aux gens qui doivent travailler de rentrer chez eux pour qu'ils puissent aller travailler le lendemain. Hier soir, nous sommes sortis vers 9h05 ou 10 minutes, ou du moins j'avais terminé. Aussi, nous sommes heureux d'accueillir tous les ministres en visite parmi nous ce soir. Et Frère Junior Jackson, Frère Carpenter et notre frère de l'église là-bas et beaucoup d'autres qui sont assis ici sur l'estrade et dehors durant la réunion. Et on m'a dit aujourd'hui qu'un de mes très précieux amis qui a été avec moi dans les champs de mission, frère et sœur Andrew, venu du fin fond de la Chine, était à la réunion hier soir. Quel merveilleux moment nous avons passé ensemble en Jamaïque l'année dernière. On a eu du bon temps, j'étais chez eux. Et bon, si je me demande si frère et sœur Andrew sont présents ici ce soir à la réunion, ce bâtiment n'est pas construit comme il faut. Alors, oui, ils sont assis tout au fond. Je me demande si vous pouvez faire un petit effort et vous lever, frère et sœur Andrew, juste un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes si heureux de vous voir, frère et sœur Andrew. Je les ai invités à venir l'année dernière quand j'étais là-bas. Maintenant, je ne le dis pas parce qu'ils sont présents, j'allais en dire plus, mais je ne le dirai pas maintenant. Mais ils sont ce que j'appelle de vrais missionnaires. S'ils viennent demain soir, je veux qu'ils parlent ici juste avant que je commence. Je veux que vous entendiez ce que signifie vraiment un champ de mission alors qu'ils étaient au fin fond du pays, au point qu'ils n'avaient même plus rien à... Eh bien, ils sont. Je pense qu'ils ont passé des années là-bas. Ils n'ont même pas vu ne serait-ce qu'une voiture ou un train ou quoi que ce soit d'autre pendant des années. Et comment la sœur faisait leur pain avec, comment elle le pétrissait. Et bon, c'est du vrai travail missionnaire. Frère Andrew, avec une aiguille et du fil, et il était médecin, il les recousait quand il se blessait. Et je pense que lorsque les enfants sont nés, sœur Andrew devait être la sage-femme, et frère Andrew, le médecin. Les habitants comptaient sur eux. Et puis quand les missions de l'Angleterre, les missions pentecôtistes d'Angleterre, ont dit qu'ils étaient trop vieux pour retourner dans le champ de mission, je vais vous dire à quel point ce sont des vrais missionnaires. Ils n'allaient pas s'asseoir dans un fauteuil et s'arrêter. Ils sont retournés à leurs frais en Jamaïque et ils font présentement du travail missionnaire là-bas. Fred Sotman et moi avons eu l'occasion d'aller chez eux et de leur rendre visite, et quel bel exemple ils nous ont démontré, aussi doux que des chrétiens peuvent l'être. Et je vous le dis, je ne dis pas ça pour... Je préfère donner une petite rose maintenant plutôt qu'une couronne après leur départ. Je vous le dis, ce sont vraiment des chrétiens. Et j'ai dit à ma femme que Sarah Andrew était l'une des femmes chrétiennes les plus gentilles et les plus charmantes que l'on puisse rencontrer. Elle est juste, son caractère est aussi façonné en Christ, et frère Andrew aussi. Donc, je suis sûr que si vous avez tous vu ceux qui viennent de se lever, j'aimerais que toute l'Église leur serre la main, les entende parler avant leur départ. Maintenant, demain, si le Seigneur le veut, eh bien, nous allons, demain soir, nous commençons ce deuxième âge de l'Église. Ce soir, nous commençons le premier âge de l'Église. Je suis sûr que le Seigneur nous réserve une bénédiction. Et souvenez-vous, comme je l'ai déjà dit, ce pourrait parfois que nous ne soyons pas d'accord sur ces choses en ce qui a trait à la théologie. Et la plupart des dates, je les tire d'historiens authentiques qui n'avaient aucun intérêt à prendre parti d'un côté ou de l'autre. Ils ont juste écrit les faits, quels qu'ils étaient, de ce que les Églises ont fait. Et bien sûr, la partie spirituelle de l'interprétation, j'essaie de la placer moi-même du mieux que je peux. Et parfois, si je parle d'une manière un peu dure ou téméraire, ce n'est pas mon intention de le faire ainsi. Tout le monde le sait, ceux qui me connaissent, que je ne le fais pas intentionnellement. Je veux juste, pour bien établir la chose, c'est comme enfoncer un clou dans une planche. Si vous faites que le taquet là, il ne tiendra pas. Il vous faut l'enfoncer et le river pour le faire tenir. C'est ce que j'essaie de faire. Ce n'est donc pas que je veuille être en désaccord, parce que je m'adresse à toutes les dénominations, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas cela. J'ai toujours dit, c'est comme marquer le bétail. Je me souviens, il y a des années, j'étais assis un jour qu'ils faisaient la rafle printanière. On amenait le bétail dans la forêt et j'aidais à conduire le bétail jusqu'à ce qu'on appelle la barrière de triage, où l'association Airford fait brouter dans la Troublesome River Valley. J'étais assis là, la jambe passée par-dessus le pommeau de la selle, regardant le garde forestier qui examinait le bétail comme il passait la clôture. Maintenant, il faut avoir, lorsqu'on se rend sur les terres du gouvernement, et il faut être capable de récolter une tonne de foin avant de pouvoir mettre une vache dans le pâturage. Et chaque ranch produit une certaine quantité de foin pour un certain nombre de têtes, alors ils peuvent les avoir. Alors, ils traversaient là, identifiés par différentes marques. Certains d'entre eux avaient le bar X. M. Grimms, juste à côté de nous, avait le groupe de Diamond T, un T à l'extrémité d'un diamant. Il y avait ce groupe de Lazy K, juste au-dessus du Troublesome River. Le nôtre était le 30 Track. Juste en dessous de nous, c'était le tripod. Il y avait toutes sortes de marques qui traversaient cette clôture. Et j'ai remarqué que le garde forestier ne portait pas beaucoup attention à ces marques. Il ne les regardait jamais. Parfois, elles se trouvaient du côté gauche de la vache, dont il n'aurait pas pu voir la marque. Donc, ce n'était pas qu'il examinait la marque. Mais une chose dont il s'assurait, c'est qu'aucune vache ne passait à moins d'avoir une étiquette de pur sang à l'oreille. Il fallait que ce soit une bête Hereford pur sang, où il ne pouvait pas traverser dans cette forêt. La marque ne comptait pas autant, mais c'était l'étiquette du pur sang. Et je me sens qu'il en sera ainsi au jugement. Ce ne sera pas la marque que nous portons, mais il cherchera l'étiquette du sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Bon, suis-je mal placé, Jean? Je le suis. Il y a de l'écho? D'accord, c'est un renversement entre les deux, n'est-ce pas? Très bien. Merci, Frère Gene. Très bien. Maintenant, nous allons essayer de sortir de bonne heure encore ce soir pour pouvoir revenir demain soir et continuer ces âges. Et je vous l'ai dit, c'est tellement difficile pour moi de mettre certaines de ces grandes choses de côté. J'essaie simplement de les faire sortir tout en une soirée. Vous savez, c'est en quelque sorte ma nature, mais il faut qu'on les retienne un peu chaque soir. Maintenant, juste avant que nous commencions à ouvrir le grand livre, je me demande si nous pourrions nous lever un instant pour changer votre position de pendant que nous nous levons, ceux qui le peuvent, et inclinons la tête maintenant solennellement pour un mot de prière. Notre Père céleste, nous nous approchons de nouveau de ton grand trône saint, venant sans broncher dans la foi, car nous venons parce que nous avons été invités à venir. Nous ne pourrions pas dire que nous venons au nom d'une église ou d'une dénomination ou au nom de cette église ou en notre propre nom, parce que nous ne serions pas certains de ça, de pouvoir obtenir cette audience avec Dieu ou pas. Mais quand Jésus nous a dit, « Si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai », alors nous savons qu'en venant au nom de Jésus, tu vas nous écouter, Père. Nous sommes si heureux d'avoir lu au sujet des martyrs d'autrefois, comment ils ont scellé leur témoignage de leur propre sang. Alors, Père, nous avons l'impression que nous faisons si peu en ce jour. Et je te prie, Seigneur, que tu pardonnes notre négligence alors que nous occupons de tes affaires. Et nous prions que tu nous joignes de nouveau alors que nous lisons ta parole et que tu vois la souffrance qui s'est manifestée dans les jours passés pour former le canon de cette grande Église rachetée du Dieu vivant. Je te prie, Père Céleste, de parler à travers nous ce soir parce que nous ne savons pas quoi dire. Nous attendons simplement et nous faisons cette prière ici parce que nous sommes en présence de Dieu dans son Église et nous demandons que le Saint-Esprit qui est sur ces gens unisse ses puissances ensemble ce soir et secoue l'Évangile dans chaque cœur pour que cela nous donne une nouvelle endurance et une nouvelle espérance pour l'âge qui s'en vient. Accorde-le, Seigneur, car nous voyons le figuier bourgeonner et Israël devenir une nation. Et les jours des gentils s'écoulent et sont comptés. Et nous attendons la venue du grand Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Marche au milieu de nous, Seigneur. Comme il a été dit ce soir, tu marches au milieu des chandeliers. Alors marche au milieu de nous ce soir, Seigneur, et avertis nos cœurs du mal qui approche et donne-nous la compréhension de ta parole, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, comme je l'ai dit à chaque jour, j'essaie d'aborder le plus possible ce qui est écrit sur le papier, des moments, des lieux, et ainsi de suite, car c'est d'un événement historique que nous approchons. Cela a été de l'histoire, et maintenant nous y arrivons, et aussi en la typifiant ce temps. Bon dimanche matin et dimanche après-midi, ou plutôt dimanche soir, nous avons eu un temps glorieux, certainement, en tout cas pour ma part. Et de la révélation. Maintenant, qu'étudions-nous? La révélation de Jésus-Christ. Et qu'avons-nous trouvé si ce n'est que Dieu a donné la révélation et montré qu'il était? La première chose que nous avons trouvée parmi toutes les révélations, c'est que Dieu a fait connaître qui il était. Que Jésus n'était pas la troisième personne d'une trinité. Il était la trinité tout entière. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'était ça la révélation. Quatre fois dans le même chapitre, il a dit qu'il était le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, le rejeton et la postérité de David. Nous découvrons maintenant que dans ces choses, nous allons essayer d'éclaircir toute l'affaire, parce que je ne sais pas quand nous l'entendrons à nouveau, peut-être jamais, jusqu'à ce que le temps ne soit plus et se fonde dans l'éternité. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a peut-être beaucoup de frères, des enseignants beaucoup plus qualifiés que moi pour parler de cela et qui pourraient probablement en avoir une meilleure interprétation, mais Dieu a mis sur mon cœur de le faire et par conséquent, je serais un hypocrite si je ne disais pas exactement ce que je pense être juste. Voyez? Alors, je veux toujours être pur devant Dieu en tout temps que je n'ai cessé, comme Paul le disait, de vous avertir jour et nuit avec larmes, afin que l'Église puisse alors être en position, si quelqu'un est perdu, que ce son sang ne soit pas sur mes mains, parce que je veux être libre du sang de tout homme à ce moment-là. Or, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, c'est simplement d'une manière amicale, c'est tout à fait en ordre. Bon, mais peut-être que le Seigneur révélera quelque chose qui nous aidera tous ensemble. Maintenant, premièrement, nous voyons qu'il s'est révélé lui-même. Maintenant, nous comprenons qui il était. Maintenant, plus loin, quand j'ai fait cette déclaration sur l'aspersion et sur le baptême au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, étant un baptême catholique et non protestant ou un baptême du Nouveau Testament, j'espère avoir été clair à ce sujet. Et j'ai demandé à toute personne qui voudrait montrer un texte biblique où quelqu'un a déjà été baptisé dans la Bible ou avant le concile laodicéen, où ils ont formé l'Église catholique, où quelqu'un a déjà été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, s'il vous plaît, venez me le montrer. Et je me mettrai sur mon dos un faux prophète et je sillonnerai la rue. Or, je ne fais ça que pas pour être dur, mais juste pour vous montrer que c'est la vérité. Voyez? Donc, ensuite, la Bible le révèle ici qu'il est le Dieu Tout-Puissant, fait chair au milieu de nous. Voyez? Non, pas Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas trois dieux, mais un dieu coupé en trois. C'est un seul dieu qui a œuvré dans trois fonctions, la paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Dieu condescendant depuis le jardin d'Éden, essayant de se frayer un chemin pour revenir dans les cœurs humains, afin qu'ils vivent et soient des fils et des filles de Dieu à nouveau avec lui. C'est Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Voilà la différence, vous voyez? Et maintenant, ces choses, la Bible les révèle et en parle en détail dans le premier chapitre de l'Apocalypse, qui est le seul livre de la Bible dans le Nouveau Testament, du canon entier du Nouveau Testament. C'est le seul livre sur lequel Jésus a posé son sceau. Il a dit, premièrement, « Heureux celui qui lit et celui qui entend. » Et à la fin, il a dit, « Si quelqu'un en retranche une partie ou y ajoute quoi que ce soit, de même, sa part sera retranchée du livre de vie. » C'est donc une malédiction pour quiconque d'en retrancher quoi que ce soit. Ceci est la révélation complète de Jésus-Christ. Donc, si on fait de lui trois personnes, vous savez ce qui arrivera. Vous voyez, votre nom sera retranché. Et personne, aucun protestant, aucune église primitive n'a jamais cru en trois dieux. C'était une grande question au conseil de Nicée et tous les deux ont pris une tangente. Ils sortirent de cette façon, pour ainsi dire, les trinitaires, les gens qui croyaient en la Trinité, qui ont finalement formé l'Église catholique, ont accepté la Trinité complète, faisant de Dieu trois personnes. Et les autres qui croyaient que Dieu était un, ils sont allés de l'autre côté pour être unitaires. Les deux ont tort. Dieu ne peut pas. Jésus ne pouvait pas être son propre père. Et Jésus ne pouvait pas non plus avoir un père et lui être, il y aurait trois dieux. Ça ne pourrait pas marcher, parce que s'il a un père, et ce père est un homme autre que lui, alors il avait le Saint-Esprit en est un autre, alors il serait un enfant illégitime. La Bible dit que le Saint-Esprit était son père. Si nous avons le Saint-Esprit, alors ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le Père en nous, dans le nom du Saint-Esprit. Utilisant cette fonction en nous, parce qu'il était autrefois dans un homme appelé l'Esprit, et il revient pour être en nous maintenant, le même Jéhovah Dieu, vous voyez? Il n'y a pas trois dieux. Trois dieux, c'est du paganisme et c'est païen. Et c'est venu d'ailleurs. Et si vous voulez bien rester toute la semaine et venir sans avoir de parti pris, mais regardez, prenez l'histoire. Prenez le même livre d'histoire que j'ai ou n'importe quel autre. N'importe quelle histoire. Sachons simplement que tous les hérésies s'accordent. Ces historiens n'ont rien à voir avec quelque parti que ce soit. Ils s'intéressent simplement à énoncer les fins, ce qui s'est passé. Et regardez exactement comment cette chose s'est infiltrée du temps de Luther et traversée le temps de Wesley et ensuite a été dévoilée dans les derniers jours. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, observez. Juste d'où il vient par l'Église catholique, dans l'âge des ténèbres, passe par Luther, descend par Wesley, mais entre en Wesley et le Laodicien à la fin, cela devait être dévoilé. C'est vrai. Maintenant, et tout ceci, c'est l'histoire. Et pas seulement l'histoire, mais c'est la Bible. Et maintenant, ce soir, Nous approchons des sept âges de l'Église qui était sept églises qui étaient en Asie mineure au moment de la rédaction du livre. Ces églises, à cette époque-là, devaient avoir les caractéristiques des âges des églises à venir. Parce qu'il n'y avait plus d'église que celle-là, l'église de Colossiens et bien d'autres à cette époque-là, mais Dieu a choisi ces églises en raison de leurs caractéristiques. Or, nous le trouvons debout au milieu des sept chandeliers d'or. Il avait dans sa main sept étoiles. Et ces sept étoiles, il dit dans le verset 20 du premier chapitre que ce sont sept anges aux sept églises. Or, dans la Bible, ils n'avaient pas compris cette révélation. Parce que à quoi cela leur servirait-il de veiller et d'attendre s'ils savaient qu'il y aurait des milliers d'années avant que Jésus ne vienne? Il ne leur a pas été donné. Et moi, je vous dis ceci à vous qui êtes ici, vous catholiques, luthériens, méthodistes et ainsi de suite, ce n'était pas donné à Martin Luther à la lumière qui est aujourd'hui sur la parole. Cela n'a pas non plus été donné à John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification que Luther n'a pas prêchée. Et la lumière vient à mesure que nous avons besoin de la lumière. Dieu le dit et cela ne nous est pas montré parce que c'est caché à nos yeux jusqu'au jour où Dieu est capable de le révéler. Tu me demandes ce que ce sera après notre départ. Oui, je suis persuadé qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai. Il y a les sept sceaux, si nous prenons seulement le livre complet de l'Apocalypse, qui sont scellés au dos du livre, qui n'est même pas écrit dans le livre. Et ces sceaux doivent être ouverts pendant cet âge de l'Église. Et les sept derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oh, j'aimerais le continuer tout l'hiver et le passer complètement en revue. Oui, monsieur, les sept âges de l'Église. Daniel entendit les sept tonnerres et lui fit interdit. Jean entendit les voix et ce livre était scellé. Et le dos du livre était scellé avec sept sceaux. Mais au jour où ces sceaux devaient être ouverts, le mystère de Dieu serait achevé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église, non pas en trois personnes, mais comme une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé, et quand cela sera complètement révélé, alors les sept mystères s'ouvriront à l'Église, parce que là-dedans, l'Église sera en train de vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui entrant et sortant, montrant ses signes d'être vivant parmi nous, et nous adorons alors le Christ vivant qui est parmi vous. Ne cherchez jamais des grandes églises et des grandes choses. Lorsque nous arriverons à cet âge pentecôtiste, vous verrez certainement où ils ont échoué. L'église même, Laodicée, signifie riche, n'a besoin de rien, et nu, pauvre, aveugle, misérable, et ne le sait pas. Vous voyez, ils ont cherché à avoir beaucoup d'argent, d'immeubles et de tout le reste. Quand l'église a toujours été les rejetés de la terre, et les voilà haïs de tous, chassés dans les ruelles, partout où ils peuvent vivre. Lisez Hébreux 11 et prenez les 6 ou 8 derniers versets. Comment ils erraient dans les déserts et pourtant des peaux de brebis et de chèvres étaient dénués, affligés et tourmentés. Ces gens là-bas, comment notre témoignage tiendrait-il contre leur au jour du jugement? Voyez ces gens de l'époque. Or, dans l'âge de cette église, si nous avons sept églises, maintenant je veux positionner cela, je ne pense pas que vous puissiez le voir d'ici. Peut-être que si certains d'entre vous le pouvaient, j'en doute beaucoup, mais je vais essayer de le faire. Je sais que vous m'avez pas pu, en posant ça ici, de faire sept âges de l'Église. Je vais le tenir à la main pour que vous compreniez. Cela commence, l'Église commence à la Pentecôte. Quelqu'un pourrait-il le nier? Non, monsieur. L'Église commence à la Pentecôte par une bénédiction pentecôtiste et a été ordonnée par Jésus-Christ pour continuer jusqu'au dernier jour avec le même message et la même bénédiction agissant en nous. Sa dernière commission à son Église, Marc 16, « Allez partout dans le monde, prêcher l'Évangile, ces signes accompagneront ceux qui croient. » Maintenant, où ça se passe? Partout au monde, à qui? Toute créature, noir, brun, jaune, blanc, quelle que soit la créature. Prêchez l'Évangile à toute créature. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, ce soir, nous nous rapprochons de cela. On a juste commencé à y toucher ce soir, chaque soir, couper un peu plus gros morceau de cela jusqu'à nous arrivions à notre propre âge de l'Église. Maintenant, nous découvrons que c'était sa commission. Or, le premier âge de l'Église était l'Église d'Éphèse. Le deuxième âge de l'Église était Smyrne. Le troisième âge de l'Église était Pergame. Le quatrième âge de l'Église était Thyatire. Le cinquième âge de l'Église était Sardes. Et le sixième âge de l'Église était Philadelphie. Et le septième âge de l'Église était Laodicée. Or, le premier âge de l'Église commença vers l'an 53 après Jésus-Christ, lorsque Paul établit l'Église à Éphèse. Au cours de son voyage missionnaire, il établit l'Église à Éphèse, l'Église d'Éphèse, dont il fut le pasteur jusqu'à sa décapitation en l'an 66, faisant lui le pasteur de l'Église d'Éphèse pendant environ 22 ans. Après sa mort, on nous dit que Saint Paul ou Saint Jean le Divin est devenu le pasteur de l'Église et l'a porté jusqu'à cet âge, et l'âge de l'Église est passé à l'an 170. Après l'âge d'Éphèse, à partir de l'an 53 jusqu'à l'an 170, puis l'âge de l'Église de Smyrne a commencé, qui a duré de l'an 170 jusqu'à l'an 312. Puis vient l'âge de l'Église de Pergame. Et l'âge de l'Église de Pergame commence à l'an 312 et dura jusqu'à la fin de l'an 606 après Jésus-Christ. Puis vient l'âge de l'Église de Thyatire, et l'âge de l'Église de Thyatire commence à l'an 606 et est passé à 1520 après Jésus-Christ, l'âge des ténèbres. Et puis l'âge de l'Église de Sardes commence à 1520 et dure jusqu'en 1750 après Jésus-Christ, l'âge luthérien. Puis à partir de 1750, l'âge suivant est celui de Philadelphie, l'âge de Wesley, qui commence à 1750 et dure jusqu'en 1906. Et en 1906, l'âge de l'Église laodicéenne s'installe et je ne sais pas quand il se terminera. Mais je prédis que ce sera fait en 1977. Je prédis, non pas que le Seigneur me l'a dit, mais je le prédis selon une vision qui m'a été montrée il y a quelques années, que cinq de ces choses ont déjà eu lieu sur les sept. Environ combien dans l'Église se souviennent de cette vision? Bien sûr, il a dit que même Kennedy serait élu lors de ses dernières élections. Comment les femmes seraient autorisées à voter? Comment Roosevelt amènerait le monde à la guerre? Comment Mussolini irait vers l'Éthiopie, sa première invasion, et la prendrait? Ce serait la fin, il mourrait après ça. Comme ces grands ismes s'élèveraient, ils seraient tous absorbés dans le communisme, hitlérisme et Mussolini, le nazisme, et ainsi de suite, seraient absorbés tous dans le communisme. Et 11 ans avant, il avait été dit, nous irons en guerre contre l'Allemagne et l'Allemagne serait fortifiée derrière le béton, la ligne Maginot. Et cela s'est accompli exactement de cette façon. Il a dit alors, après cela, on en viendra au point, arrivera que la science se développera tellement jusqu'à ce qu'ils inventeront une voiture. Les voitures auront plus la forme d'un œuf tout le temps. Et cette vision a été donnée ici même, où se trouve maintenant l'Église du Christ, à l'ancien orphelinat Charlie Kern. Et peut-être dans l'immeuble ce soir, vivait à cet endroit à l'époque. C'est un dimanche matin vers 7 heures que cela s'est passé. Il a dit, puis il arrivera qu'ils inventeront une voiture dans laquelle ils n'auront pas besoin d'un volant. Elle sera contrôlée par une sorte de puissance. Ils l'ont maintenant. Ils l'ont maintenant en puissance magnétique, contrôlée par un radar. Ils n'ont même pas juste réglé votre radar à l'endroit où vous voulez aller. Elle vous conduit vous-même, pas besoin d'utiliser le volant. Elle y était dit, en ce temps-là, il y aura une grande femme qui se lèvera aux États-Unis. Et elle était habillée et de grande beauté, mais elle était cruelle dans son cœur. Et j'ai mis en parenthèse sur l'avion, même marque avec du papier jaune, disant peut-être l'Église catholique. Et le fait d'autoriser les femmes à voter aiderait à élire la mauvaise personne pour ce pays. Et c'est ce qu'ils ont fait, exactement. Maintenant, il a dit, ce sera le début. Encore une autre chose qui était dit, c'est que, et aussitôt après cela, j'ai vu cette nation devenir comme couvert de fumée, tout simplement réduite en miettes. Maintenant, si ces choses sont arrivées, l'autre aussi arriveront. C'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir pour essayer d'apporter cela et de le présenter aux gens de Jeffersonville, parce que je me prépare à entrer dans les champs de mission très bientôt et je ne sais pas à quelle heure je pourrai être appelé ou retiré. Nous ne savons pas cela. Et je vais être sûr que je suis, que l'Église sache l'heure à laquelle ils vivent, parce que Dieu Tout-Puissant me tiendra responsable de cela. Or, maintenant, chacune de ces églises, selon l'Écriture, là, avait un ange. Et l'ange était un... Combien savent ce que signifie un ange? C'est un messager. Un messager. Il y avait sept anges pour les sept églises qui signifient sept messagers. Maintenant, ils étaient des étoiles dans sa main. Et dans sa main, c'est cette étoile qui devait refléter la lumière de sa présence en ce jour sombre dans lequel nous vivons. Comme les étoiles reflètent le soleil vers la terre, l'éclair pour que nous puissions marcher et nous déplacer la nuit. Or, nous découvrons que pendant ce temps, chacun de ces anges avait une position et une place. Et frères, ce soir, nous n'y toucherons pas parce que nous connaissons cet ange de la première église, mais ce sera une chose mystérieuse et glorieuse à trouver et à soutirer de l'histoire devant vous, les anges de ces autres églises. L'ange de la première église était Saint Paul. Il l'a fondé, le messager de Dieu. L'ange de l'église d'Éphèse était Saint Paul. L'église... Maintenant, la raison pour laquelle maintenant, vous pourriez ne pas être d'accord avec ces autres, mais je suis assis là pendant des jours et des jours sous l'inspiration jusqu'à ce que je sente le Saint-Esprit me frapper et moindre pour cela. C'est la raison pour laquelle je le sais. Et regardez ces hommes qui ont été choisis, si vous êtes historien, les mêmes hommes que j'ai ici, et je sais par révélation qu'ils étaient les anges de l'Église. Ils avaient le même ministère que ceux-ci au début, et ce ministère... là, ne peut pas changer. Il doit rester comme à la Pentecôte jusqu'au bout. Maintenant, les historiens qui sont assis ici ne seront pas d'accord avec moi sur cet homme, mais sur l'Église de Smyrne, Irénée est celui que je connais qui fut l'ange de ce jour-là. Polycarpe, beaucoup d'entre vous diront que c'était Polycarpe, vous direz que c'était lui plutôt. Mais Polycarpe s'est penché davantage vers l'organisation et sur la religion catholique à venir. Irénée était un homme qui parlait en langue, qui avait la puissance de Dieu et les signes le suivaient. Il était la lumière de l'ange de Dieu. Il a tiré la lumière sur lui après que Polycarpe a été crucifié ou tué, assassiné. Irénée était un de ses élèves et Polycarpe était un élève de Saint Paul ou Saint Jean. Puis Irénée a pris sa place et apporta la lumière. Et l'ange de la lumière de Pergame était le grand Saint-Martin. Je ne crois pas qu'il n'y ait jamais eu de plus grands hommes sur terre en dehors de Jésus-Christ que Saint-Martin. La puissance, les assassins sont venus à lui pour lui couper la tête. Il croyait aux signes et aux prodiges et à la bénédiction pentecôtiste. Et quand ils sont allés le voir, ils allaient l'assassiner, il a retiré son manteau et leur a tendu le cou. Et quand l'assassin a tiré l'épée pour lui couper la tête, la puissance de Dieu l'a assommé, il s'est mis à genoux pour lui demander « Amen ». C'était un ange à l'église. Autre chose, regardez comment un de ses frères avait été pendu. Il était en la route pour essayer de le retrouver, voir ce qui s'était passé. Et quand il est arrivé là-bas, il l'avait déjà pendu. Il était là, étendu mort. Et ses yeux sortaient de sa tête. Il s'approchait de lui, se jeta à genoux et étendit son corps sur lui pendant une heure, priant Dieu. Et la puissance de Dieu vint sur l'homme. Et il se leva, prit sa main et s'en alla avec lui directement. Ça, c'est de l'histoire, tout comme George Washington, Abraham Lincoln ou quoi encore. C'est l'histoire ancienne. Oui, monsieur, Saint-Martin était l'ange de l'Église de Pergame, dont le mariage de l'Église les amena dans le catholicisme après cela. L'ange de l'Église de Thyatire était Colomban. L'ange de l'Église de Sardes, l'Église morte, le mot « Sardes » signifie « mort », elle sortit avec un nom, pas son nom, mais un nom qui vit, mais que tu es mort. Regardez comment ils ont amené ce baptême en ce jour-là. Tu vois, cela vient de ça. L'ange de l'Église de Sardes était Martin Luther, le premier réformateur. L'ange de l'Église de Philadelphie était John Wesley, le messager. Et l'ange de l'Église de Laodicée n'est pas encore connu. Ce sera connu un jour, mais peut-être qu'il est sur terre. Celui qui a des oreilles sait que c'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est Dieu qui en jugera. Maintenant, remarquez maintenant, et nous irons maintenant aux Écritures, revenons au premier âge de l'Église. Maintenant, j'ai quelques petites choses écrites ici que j'aimerais que vous écoutiez attentivement. La première Église, l'Église d'Éphèse, les œuvres de l'Église, ce pourquoi Dieu les a condamnées, étaient des œuvres sans amour. La récompense était l'arbre de vie. L'Église de Smyrne était une église persécutée et est passée par la tribulation. La récompense était la couronne de la vie. La troisième église, Pergame, l'âge de la fausse doctrine, le mensonge de Satan et la fondation de la règle papale, le mariage de l'église et l'État. La récompense était une manne cachée, une pierre blanche. L'église de Thyatire était l'église de la séduction papale, le Moyen Âge. La récompense était la puissance régnée sur des nations et l'étoile du matin. C'est la petite minorité qui est passée par là. L'Église de Sardes était l'âge de la réforme, le grand missionnaire, ou non missionnaire, mais les noms cachés, ils avaient leur propre nom. Et la récompense était le vêtement blanc et le nom dans le livre de vie qui doit venir dans le jugement. Nous avons vu cela l'autre jour, le livre de vie. Vous devez être jugé à partir du livre de vie. Les saints sont enlevés et pris sans cela. Ils ne vont pas à cela. L'âge de l'Église de Philadelphie était l'âge de l'amour fraternel, le grand âge de la commission et le grand âge missionnaire, la porte ouverte. Et la récompense était être un pilier. Révéler les noms de Dieu et devait être au cours de cet âge quand il est sorti vers 1906. Très bien. L'âge de Laodicée était l'église tiède, riche, beaucoup de biens, n'ayant besoin de rien. Mais elle était malheureuse, pauvre, aveugle, misérable et nue. Et la récompense était de s'asseoir sur le trône avec le Seigneur, ceux qui vaincront cet âge. Maintenant, pour détailler ce soir, pour vous montrer un peu en rapport avec le service de ce soir, nous allons prendre le deuxième chapitre, le premier âge de l'Église. Maintenant, il s'est révélé et nous savons qui il est. Il est Dieu. Maintenant, l'âge de l'Église commence, comme je l'ai dit, vers l'an 53 à l'an 170. Et A, la ville d'Éphèse, l'une des trois grandes villes d'Asie, souvent appelée la troisième ville de foi chrétienne. La première était Jérusalem, la deuxième Antioche, la troisième Éphèse. C'est une ville de grand commerce et d'échange. E, le gouvernement était romain. F, la langue était le grec. Les historiens croient que Jean, Marie, Pierre, André et Philippe y ont tous été enterrés. Et Éphèse était connue pour sa beauté. Le christianisme à Éphèse était là où vivaient les Juifs à Éphèse. Et elle a été fondée vers l'an 53 ou 55. Le christianisme y a été planté par Saint Paul. Plus tard, Saint Paul passa 3 ans à Éphèse. L'enseignement de Paul avait une grande influence sur les croyants d'Éphèse. Ensuite, Timothée fut le premier évêque de l'Église d'Éphèse. Paul écrivait à l'Église d'Éphèse. Du temps de Paul, c'était une grande Église. Éphèse signifie, le nom même d'Éphèse signifie lâchez prise, détendez-vous, rétrograde. Appelée par Dieu, l'Église rétrograde. Dieu a d'abord reconnu leurs œuvres, leur travail et leur patience. Dieu a réprimandé leur vie, abandonnant leur premier amour d'avoir rétrogradé et ne plus porter la lumière. Éphèse n'était pas une église séduite. Elle a failli en ne continuant pas dans l'amour parfait. En résumé, d'Éphèse, les fruits, sans amour, ont conduit à l'apostasie. Les promesses, le paradis est promis aux vainqueurs, au sein de l'âge de l'Église d'Éphèse, donné à l'arbre de vie. Voici une belle chose. L'arbre de vie est mentionné trois fois dans la Genèse, trois fois dans l'Apocalypse. La première fois qu'il a été mentionné dans la Genèse, c'était en Éden, et le Christ était l'arbre. Les trois fois que cela a été mentionné dans l'Apocalypse, c'était Christ au paradis. Oh, c'est vraiment riche. Le Seigneur vous bénisse. Nous commençons maintenant le premier chapitre d'Éphèse, ou le premier verset du chapitre, l'Église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Jean est le messager de cette période-là, au milieu de ces sept chandeliers d'or. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, marchait. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas dit qu'il marchait dans un chandelier. Il marchait au milieu de tous les chandeliers. Qu'est-ce que cela indique? Qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce, dans chaque âge de l'Église, pour chaque croyant. Il vient avec le Saint-Esprit dans tous les âges et à tous les hommes. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tenant dans sa main droite, la main droite signifie son autorité et sa puissance. Tenant dans sa main droite, sous son contrôle, les sept messagers des sept anges de l'Église. Oh, j'aime ça. Voyez-le marcher à travers ces âges de l'Église, le Christ se faisant connaître à son peuple à travers ces âges des ténèbres, à travers chaque âge, tandis que l'Église est devenue formaliste et s'est retirée et que certains sont allés d'un côté de l'autre. Cette petite minorité de l'Église a tenu bon et Christ a travaillé avec eux, confirmant sa parole. Il l'a conduit à travers tout cela. C'est si facile de voir comment nous avons obtenu ce que nous avons aujourd'hui. Quand on commence à étudier ça, maintenant, ici, au début, je crois que vous pouvez tous voir à cette hauteur, voici un âge de l'Église, c'est la Pentecôte. Le deuxième âge de l'Église, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième âge de l'Église. Maintenant, si vous suivez très attentivement, l'Église commence à la Pentecôte. Combien croit cela? Vous voyez ce qui s'est passé à la Pentecôte? Ensuite, nous observons l'Église alors qu'elle continue de perdre du terrain. Ça commence à diminuer un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu. Elle diminue jusque-là lorsque la véritable Église s'en va. Or, le Christ, aussi petite que soit l'Église, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Quand ils sont assemblés en quoi? Au nom des méthodistes? Nom des baptistes? Nom des pentecôtistes? Nom de Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés, peu importe le petit nombre, et leur nombre sera si petit dans les derniers jours que, dit-il, il faudra qu'ils viennent rapidement et qu'ils abrègent tout ça, sinon aucune chair ne sera sauvée pour l'enlèvement. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Et maintenant, au premier tour, les apôtres. Maintenant, nous voyons que c'est le début, la Pentecôte. Il se promène, le même grand Dieu, le même grand signe devait se produire tout au long de ces âges parce qu'il marchait dans chaque âge. Bénissant quoi? Son peuple qui s'est assemblé en son nom. Je veux que vous observiez ceci au cours de notre étude de l'Église. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Et cette Église-ci l'a perdue. Cette Église-ci sort l'âge de Luther avec un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Et cela continue jusqu'à la fin de cet âge-ci. Entre cet âge-ci et cet âge-ci, il y a une porte ouverte qui ramène de nouveau ce nom à l'Église. Maintenant, regardez, voici, c'est la vérité après que nous l'aurons vu ici dans l'Écriture, là, entre les âges. Maintenant, demain soir, j'essaierai de voir ce schéma dessiné ici afin que nous puissions tous le voir et je viendrai peut-être demain après-midi pour dessiner certains des dessins dont je veux vous parler. Et s'il y en a parmi vous qui ont des ouvrages historiques, apportez-les ou prenez vos notes et allez à la bibliothèque ou quelque part et trouvez les ouvrages historiques, lisez-les et voyez si ça concorde. Et maintenant, le premier verset, qu'est-ce qu'il a fait? Il les salue. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, à Jean. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est une salutation. Maintenant, au verset 2 et 3, il les loue. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Vous voyez, cette apostasie avait déjà commencé à s'installer dans ce premier âge. Avait déjà commencé juste là, parce que l'Église élue et véritable qui voulait garder les préceptes de la Bible et garder les paroles que Jésus avait dites dans son témoignage, ils avaient déjà commencé à s'éloigner. Quelque chose a commencé à se produire et de faux enseignants s'étaient élevés. Des gens qui enseignaient des choses fausses, contraires aux Écritures, essayant d'infiltrer quelque chose ou d'ajouter quelque chose. C'est pourquoi il a donné cette révélation à l'Église et a dit « Quiconque retranche ou y ajoute sa part sera retranché du livre de vie. » Cela signifie d'être perdu, frère. Ne touchez pas à la parole de Dieu. Peu importe qui elle blesse ou ce qu'elle blesse, prononcez-la quand même, exactement comme c'est écrit, c'est la manière. Nous n'avons pas besoin d'un grand quelque chose d'autre, nous n'avons pas besoin d'un prêtre ou de quoi que ce soit pour nous l'interpréter. Dieu, le Saint-Esprit, elle interprète. Il donne l'interprétation. Maintenant, si vous remarquez, il se détourne des méchants et trouve les faux prophètes après qu'ils ont été trouvés faux, ayant l'apparence de la piété. Vous voyez comment l'Église a commencé à devenir formaliste pendant cette période? Il commence en quelque sorte à détruire les gens qui sont sous l'inspiration du Saint-Esprit et font en sorte que les gens commencent à se moquer d'eux. Eh bien, Jésus n'a-t-il pas dit « Heureux serez-vous quand vous serez persécutés pour la justice? » Il n'a jamais dit de commencer à devenir formaliste. Il a dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il a dit cela, c'était dans les Béatitudes, dans Matthieu 5. Heureux serez-vous. Eh bien, avoir des gens qui se moquent de vous parce que vous aimez le Seigneur Jésus, c'est une bénédiction juste de les entendre dire cela. Ils ne sont que, quand ils vous maudissent, ils font descendre les bénédictions de Dieu sur vous. Ça se retourne contre eux. Comme ça l'a fait pour Balaam en ce temps-là. Ça se retourne contre eux. Quand ils essaient de se moquer de vous parce que vous êtes chrétien, eh bien, ça se retourne contre eux. Et Dieu envoie une bénédiction, car heureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de mon nom. À cause de son nom. Heureux serez-vous. Nous découvrons maintenant qu'il voulait commencer à avoir dans une forme extérieure de piété. Maintenant, je pourrais m'arrêter ici et dire quelque chose. Je crois que je vais le faire. Avez-vous remarqué que chaque réveil... Maintenant, mes frères prédicateurs, vérifiez ceci. Chaque réveil produit des jumeaux. Tout comme Jacob et Rebecca ont produit des jumeaux. Ésaü et Jacob. Je veux dire Isaac au lieu de Isaac et Rebecca au lieu de Jacob. Isaac et Rebecca ont produit des jumeaux. Le père était saint, la mère était sainte. Mais ils ont eu deux garçons, Ésaü et Jacob. Or, tous deux étaient religieux. Mais Ésaü, quant aux œuvres et aux actions en bon légaliste, il était probablement un meilleur garçon en tout point que Jacob l'était. Le saviez-vous? Jacob n'était qu'un petit garçon qui s'accrochait tout le temps à la jupe de sa mère. Mais Ésaü allait travailler, il partait et trouvait du gibier à donner à son vieux père aveugle, qui était un prophète. Il essayait de prendre soin de lui. Mais Jacob n'avait qu'une seule chose en tête. Il voulait ce droit d'aînesse. Peu lui importait combien de temps. Il devait s'accrocher pour l'avoir ou ce qu'il devait faire. L'essentiel dans sa vie, c'était le droit d'aînesse. Et Ésaü le méprisait. Or, ne voyez-vous pas l'homme naturel? L'homme naturel, quand un réveil arrive, il y a deux catégories de gens qui sortent de chaque réveil. Il y a un homme naturel qui s'approche de l'autel et dit, « Oui, monsieur, j'accepte Christ comme mon sauveur. Il sortira et qu'est-ce qui lui arrivera? » Il finira bientôt dans une bonne église froide et formaliste parce qu'il pense, « Eh bien, si j'adhère à l'église, je suis aussi bon que le voisin. Ne suis-je pas aussi bon qu'un tel? Quelle différence fait-il tant que je suis membre d'une église et que je fais ma confession? Eh bien, c'est tout à fait différent. Vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir le droit de naître. » Et Jacob ne se souciait pas de combien on se moquait de lui. Il voulait ce droit d'aînesse et peu lui importait comment il allait l'obtenir. Bon, beaucoup de gens ne veulent pas du droit d'aînesse parce qu'ils pensent que ce n'est pas tellement populaire. Ils ne veulent pas s'agenouiller à l'autel et pleurer un peu ou se priver de quelques repas et de quelque chose d'autre. Ils ne veulent pas le faire. Beaucoup de femmes, beaucoup, vous savez, avec du maquillage, elles pensent que si elles pleurent, le maquillage pourrait partir et alors elles remettent. Eh bien, et ce n'est pas mon intention que ça a l'air sacrilège, j'espère que ce n'est pas ce que ça a l'air, mais c'est la vérité. Ils n'en veulent pas, c'est tout. Ils n'en veulent pas de la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance est en sorte un gâchis. C'est comme n'importe quelle autre naissance. Toute naissance est un gâchis, peu m'importe où c'est, si c'est une porcherie ou dans une grange ou dans une chambre d'hôpital décorée en rose, c'est un gâchis. Et il en va de même pour la nouvelle naissance. C'est un gâchis. Amen, cela vous fera faire des choses que vous n'auriez jamais cru faire, vous tenir au coin de la rue et taper sur un tambourin ou chanter « Gloire à Dieu, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Eh bien, vous vous comportez comme un maniaque. C'est ce que cela fait aux apôtres. C'est ce que cela fait à la Vierge Marie. Elle agissait comme si elle était Ève. Elle était un gâchis dans la société, mais il faut un gâchis pour que la vie puisse sortir. Amen. À moins qu'une chose ne meure et ne pourrisse, la vie ne peut pas en sortir. À moins qu'un homme ne meure et ne pourrisse à ses propres pensées, Christ ne peut pas entrer dans son cœur. Quand vous essayez de penser, bon, si je m'avance à l'autel et que je dis, oui, Seigneur, je suis quelqu'un de bien, je vais t'accepter, je vais payer ma dîme, je vais faire ceci, vous devez mourir et pourrir jusque-là à vos pensées. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle et simplement faire de vous ce qu'il veut, que vous deveniez en sorte un gâchis avec ça. Ça a l'air horrible, pas sacrilège, mais c'est la vérité. C'est le seul moyen que je connaisse pour faire ressortir cela afin que vous le compreniez. Quel plus grand gâchis que ce groupe de Juifs, plein de dignité, ce jour-là, de voir ces gens qui sortaient là-bas avec des élèves balbutiants. Vous savez ce que c'est, balbutiants? D'autres langues et agissant comme des gens ivres. C'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'air d'un gâchis. Il a dit, ces hommes sont-ils tous pleins de vin doux? Mais après qu'un d'eux soit revenu un peu à lui, il dit, « Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez supposer. » Mais il s'est référé à l'Écriture. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'est ainsi qu'est née l'Église, au commencement. Combien croient que Dieu est infini? Alors, il ne peut pas changer. Et si c'était son idée d'une église au commencement, c'est le genre d'église qu'il aura à la fin. Il ne peut pas changer. Alors comment allez-vous y substituer une poignée de main ou une aspersion ou quelque chose d'autre qui ne s'est pas produit à ce moment-là? Chacun des apôtres est revenu à cela. Après qu'ils ont eu fait tout cela, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Pierre a dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous au commencement? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom de ce Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Paul est parti à trouver des gens qui criaient, qui s'en donnaient à cœur joint, un groupe baptiste qui glorifiait Dieu. Et il a dit, dans Actes 19, il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Ils ont dit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisé? » Il répondit, « Nous avons été baptisés par le même homme qui a baptisé Jésus, Jean-Baptiste. » Il a dit, « Eh bien, ça ne marchera plus. » Voyez, Pierre a scellé cela le jour de la Pentecôte. Il avait la clé, voyez. Il a dit, « Ça ne marchera plus. Vous devez vous faire rebaptiser. » Alors, il les a rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur a imposé les mains. Ils ont eu le même genre de résultat qu'eux avaient eu là-bas au commencement. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Eh bien, cela a été à l'Église tout au long des âges. Or, cela a commencé juste ici au commencement. Je connais ta persévérance. Tu es extrêmement patient. Je sais cela. Maintenant, souviens-toi, je suis celui qui marche au milieu des chandeliers. Je connais ta persévérance, tes œuvres, ton travail, ton amour et ainsi de suite. Je sais tout ce que tu as fait. Et je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent prophètes, apôtres et que tu les as trouvés menteurs. Oh, c'est assez direct, n'est-ce pas? Je ne suis pas responsable de ça. Il a dit qu'ils étaient menteurs. Mais la Bible dit, éprouvez un homme. Si quelqu'un parmi vous est spirituel ou prophète ou dit l'être, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Je lui parlerai par des visions et par des songes. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, ne le craignez pas, voyez-vous, parce que je suis avec lui. Mais si cela n'arrive pas, alors ne l'écoutez pas, il n'a pas reçu ma parole. Voyez, si c'est sa parole, cela arrivera. Or, ils ont découvert que ces hommes ne se comportaient pas selon la Bible. Voyez, ils essayaient d'obtenir autre chose. Je veux que vous réfléchissiez à cela maintenant, alors que nous arrivons à la pépite dans quelques minutes. Bon, et il dit, je vois ce que tu as de la patience, de la persévérance, et avec eux, tu les as éprouvés et découvert qu'ils ne sont pas apôtres. Ils n'en sont pas. Maintenant, comme je l'ai dit au début, avant que nous reprenions cela, chaque réveil produit des jumeaux. L'un est un homme spirituel, l'autre est un homme naturel de la terre. J'ai adhéré à l'Église, je suis aussi bon que n'importe qui, et c'est ce que le réveil a produit. C'est ce que chaque réveil, c'est ce que Luther a produit, c'est ce qu'Irénée a produit, c'est ce que Martin a produit, c'est ce que Colomban a produit, c'est ce que Wesley a produit, c'est ce que la Pentecôte a produit. Très exactement. Vous voyez comment ils se sont dégradés. Ils ont construit leur église, ils ont continué de s'éloigner avec de grands et beaux endroits. Et, oh, bonté, ils se lèvent et récitent le credo des apôtres. Je crois à la Sainte Église catholique romaine et à la communion des saints. Quiconque croit à la communion des saints est un spirit. Tout ce qui est communié avec les morts est du diable. C'est tout à fait vrai. Nous avons un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est l'homme Jésus-Christ. C'est vrai, c'est ce que Pierre a dit. Et vous, chers catholiques, vous l'appelez le premier pape? Et Pierre est le premier pape qui a marché avec Jésus. Puis il a dit, il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et l'homme, et de ceux-là, on en a 10 000 de plus aujourd'hui. Pourquoi cela a-t-il changé si l'Église est infaillible et qu'elle ne change pas, et toutes vos messes sont dites en latin pour qu'il n'y ait pas de changement? Qu'est-ce qui est arrivé? Où avez-vous vu le credo des apôtres dans la Bible? Si les apôtres avaient un credo, c'était « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Je n'ai jamais entendu dire qu'ils connaissaient un autre credo ou qu'ils récitaient quoi que ce soit d'autre. Mais pour ce qui est des saintes églises romaines et de toutes ces autres choses, et de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui préserve les cieux et la terre, c'est insensé. Oui, c'est vrai, ce n'est pas dans la Bible. Une telle chose dans les Écritures, ça n'existe pas. C'est un credo qu'ils ont fabriqué de toutes pièces. Mais c'est toutes les prières et tout, c'est fabriqué. Nous pouvons voir aujourd'hui que nos protestants, quand nous regardons cela, sont issus directement d'eux. Et comme Billy Graham l'a dit dimanche, les gens ont tellement vécu dans l'erreur qu'ils pensent être en ordre, alors qu'ils ont tort. C'est vrai. C'est la vérité. Je suis heureux d'être. Bien sûr, je sais que Billy Graham a reçu Saint-Esprit sous George Jeffries là-bas, mais un seul jour, il sortira de cela. Dieu l'utilise là-bas en ce moment parce qu'il peut secouer ce royaume que tout autre peut difficilement effleurer. Mais vous pouvez voir sa prédication qu'il y a quelque chose derrière cela à cause de certains de ses baptistes d'honneur de poignée de main. Oui, monsieur. Maintenant, je connais tes œuvres et ta persévérance et que tu ne peux pas... Voyons voir, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance... que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent qu'ils sont apôtres et qu'ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Il les a trouvés menteurs. Comment ont-ils su cela? Ils ne citaient pas la parole. Or, si un homme dit que cette Bible, dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, l'homme a dit, « Ah, les jours des miracles sont passés », alors cet homme est un menteur. Si la Bible dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés » et que tous les versets de la Bible disent la même chose et que tous ceux qui ont été baptisés du temps de la Bible ont été baptisés au nom de Jésus-Christ et que lui leur ordonne d'être baptisé, aspergé ou quelque chose autre comme cela, cet homme est un menteur. Il s'avère être un faux prophète. J'espère que je ne vous laisse pas, mais frère, vous ne pouvez pas jouer avec ceci. Il est temps d'enlever les gants et de prendre l'Évangile en main. Voyez, c'est la vérité. Maintenant, montrez-moi quelque chose d'autre. Montrez-moi où une personne a déjà été baptisée autrement qu'au nom de Jésus. voyez en dehors de l'Église catholique. Et si vous êtes baptisé de cette façon, vous n'êtes pas dans l'Église chrétienne, vous êtes dans l'Église catholique parce que vous êtes baptisé. Leur propre visiteur du dimanche, le catéchisme, posait la question, y aura-t-il des protestants qui seront sauvés? Ça disait beaucoup d'entre eux parce qu'ils ont accepté notre baptême et plusieurs choses comme ça. Ça disait, ils prétendent croire la Bible et la Bible dit baptiser au nom de Jésus-Christ et nous l'avons retranché pour y mettre Père, Fils, Saint-Esprit et ils ont plié les chines devant cela. Certainement, voyez? Ce n'est pas un baptême chrétien, c'est un baptême catholique. L'avez-vous entendu dire un soir, avez-vous déjà été baptisé au baptême chrétien? Le baptême chrétien est en Christ, en Jésus-Christ. Et non pas dans un titre quelconque. Bon, le verset 3, c'est très bien. Le verset 2 et 3. Maintenant, le verset que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. À cause de mon nom. Avez-vous remarqué qu'ils étaient persévérants? Ils avaient souffert. Pourquoi? Son nom. Vous voyez comment on tenait ferme pour le nom dans cette église? Maintenant, observez bien ça, que nous verrons au cours de la semaine, comment ça disparaît peu à peu et qu'on passe à un autre nom, voyez? Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ils ont souffert pour son nom. Pour que le nom de Jésus-Christ reste au-dessus de toute église, au-dessus de toute autre chose, qu'il ait la première place, quoi que la Bible dit et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Est-ce vrai? Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, si vous mariez, que vous mariez une personne, si vous ne faites pas, s'ils sont tout confus à propos de leur mariage, ne les mariez pas. Voyez, si vous ne faites pas dire librement, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ, laissez-les faire. Très bien, si vous voulez les baptiser, baptisez-les au nom de Jésus. Si vous devez faire quelque chose que vous ne pouvez faire au nom de Jésus, alors laissez tomber. Quelqu'un dirait, prends un petit verre. Vous ne pouvez pas le faire au nom de Jésus. Alors laissez tomber. Quelqu'un dirait, joue un peu au cartes. Vous ne pouvez pas le faire au nom de Jésus. Alors laissez tomber. Une plaisanterie grossière et déplacée à votre partie de bridge. Vous ne pouvez pas dire ça au nom de Jésus. Alors laissez tomber cela. Voyez? Vous ne pouvez pas porter de short au nom de Jésus. Alors laissez tomber. Je pourrais continuer, mais vous savez de quoi je parle. Très bien. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce que vous ne pouvez pas faire en son nom, laissez-le de côté, parce qu'il a dit, quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Très bien, maintenant. Bon, nous allons, il est alloué pour cela. Je vais maintenant parler de la réprimande du chapitre 4, ou plutôt au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, j'ai quelque chose contre toi. Tu as été persévérant. Tu as souffert à cause de mon nom. Ne serait-ce pas une bonne chose pour ce tabernacle aujourd'hui? Oui, monsieur. Tu as bien agi. Tu as eu beaucoup de persévérance. Tu as souffert longtemps. Mais ce qu'il y a, tu as souffert à cause de mon nom. J'apprécie tout cela. Je te félicite pour cela. C'est très bien. Et j'ai vu que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tout, et que tu les as trouvés menteurs. Ils ne se conforment pas à la parole. J'apprécie tout cela. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné l'amour que tu avais pour ces bonnes vieilles réunions à l'ancienne mode du Saint-Esprit. Et tu as commencé à retourner dans ce formalisme, débutant avec « Notre Père sottise ». Voyez? Toute cette grande société ici, quelqu'un doit arriver en portant une grande robe, vous savez, pour chanter dans la chorale, vous savez, et leurs cheveux tout manucurés et tout, et beaucoup de maquillage sur le visage, et ils chantent comme je ne sais quoi. Ici, il n'y a pas longtemps, une UTT que c'était la réunion de Red Roberts, j'en aurais certainement interpellé un tas. J'étais à la convention des hommes d'affaires et elle avait lieu. Nous n'avions pas ce soir-là, j'allais prêcher, et ils ne pouvaient pas la tenir là à l'hôtel, et ils m'ont amené à la bâtisse de Red Roberts. Et quand je me suis assis dans le bureau d'Oral, il y avait un groupe d'enfants pentecôtistes. Oh, des jeunes hommes et des jeunes femmes de 16, 17 ans, 18 ans, tous debout là. Environ 30 ou 40 d'entre eux allaient chanter une sorte de petite... Ça me semblait être une ouverture composée par quelqu'un du genre dont Becky me parle, Tchaïkovski ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas, quelque chant de ce genre, un chant classique. Ils étaient là, les frères s'apprêtaient à prendre une offrande pendant la réunion et chacun d'entre eux s'avançait, on leur remettait une petite tasse et ils agissaient comme s'ils étaient aveugles et toutes les plaisanteries et le désordre que vous n'ayez jamais entendu entre ces garçons et ces filles et bavardant sans retenue. Et ces filles portaient suffisamment de maquillage pour peindre le bâtiment d'Oral, presque. Et là, ils se sont comportés comme s'ils étaient pentecôtistes. Ils ont perdu leur premier amour. Je suis certainement d'accord avec David Duplessis. Dieu n'a pas de petits-enfants, non, monsieur? Nous avons des petits-enfants méthodistes. Nous avons des petits-enfants baptistes. Nous avons des filles. Mais Dieu n'en a pas. Vous êtes des fils et des filles. Vous ne pouvez pas entrer sur le compte de votre mère ou de votre père parce qu'ils étaient de braves hommes et de braves femmes. Vous devez payer le même prix qu'eux. Vous devez naître tout comme eux. Dieu n'a aucun petit-enfant. Vous êtes un fils ou une fille. Mais vous n'êtes pas un petit-fils, ça c'est sûr. Je suis allé à une réunion là-bas, là, dans l'église d'une belle assemblée pentecôtiste. Alors là, vous auriez dû voir ces femmes se disperser quand elles m'ont arrivé, avec ses cheveux coupés courts et ses petits vêtements à moitié habillés, presque comme une saucisse de Francfort, vous savez, fondue dans ses robes comme ça, des femmes pentecôtistes, habillées de façon si sexy. Vous auriez à répondre à cela au jour du jugement. Vous serez coupable d'adultère. Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et si vous vous présentez un homme habillé de cette façon, qui est coupable? Vous, l'homme. Soyez honnête. Fuyez l'apparence même du mal. Voyez? Alors voilà. Qu'avez-vous fait? Elles ont abandonné leur premier amour. Oh, vous ne pourriez pas les poster sur un coin de rue avec un tabouret pour battre des mains et louer Dieu. Oh non, elles chanteraient plutôt quelque chose de classique revêtu de ses robes. Voyez, elles ont abandonné leur premier amour. C'est ce qui s'est passé avec la première église, voyez. Il leur faut simplement agir comme le monde. Elles doivent s'habiller comme le monde, ressembler au monde, agir comme le monde et avoir leur vedette de télévision préférée. Vous savez, elles ne peuvent pas s'empêcher de la regarder. Nous aimons Suzy ou une émission du genre. Vous savez, il faut absolument qu'elles la regardent. Elles vont rester à la maison au lieu d'aller à la réunion de prière. Et tout pour la regarder. Si elles ne le font pas, elles réprimandent leur pasteur pour qu'ils les laissent partir. Attends qu'elle ait le temps de rentrer à la maison pour la regarder. L'amour du monde plus que l'amour de Dieu. Oh, trop formaliste, elles ne peuvent plus dire Amen. Bonté divine, ça pourrait briser leur maquillage. Vous voyez, elles ne l'ont plus. Ce sont les pentecôtistes. Ce ne sont pas les baptistes. Ils ne l'ont jamais eu, pour commencer. Les presbytériens, je parle de la Pentecôte. C'est vrai. Je sais que ça fait terriblement mal, frère, mais nous voulons sortir de ça par une naissance. Nous devons mourir afin de pouvoir avoir une naissance, voyez? Voyez, c'est la vérité. Mais voilà, vous avez abandonné votre premier amour. Si Dieu avait cela contre cette église, il l'a aussi contre celle-ci. Parce que tu as abandonné ton premier amour, ce que j'ai contre toi. J'ai quelque chose contre toi, c'est ma réprimande. Tu vivais de bons moments, mais tu as laissé le monde commencer à s'infiltrer et tu t'es mis à agir de manière un peu formaliste. Tu souffres toujours pour mon nom et tu fais encore ce qui est juste et tu as beaucoup de persévérance et ainsi de suite et tu travailles, tu es comme une mule, tu ne fais que travailler et travailler. Oh là 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 là. Vous voyez, vous avez abandonné la grâce, la foi et la puissance pour l'échanger contre le travail et les œuvres. Eh bien, je vous le dis, frère Branham, j'aide toutes les veuves que je peux. Bien, c'est une bonne chose, je vous en félicite. Mais où est ce premier amour que vous aviez? Où est cette joie que vous aviez? Comme s'écria un jour David, « Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Où sont les réunions de prière des nuits durant et les larmes sur vos joues? » Bonté divine, la Bible est de même poussiéreuse, il y a des toiles d'araignée dessus. Vous lisez ces petites histoires d'amour, les nouvelles et ces choses, et des choses qu'on ne devrait même pas permettre d'être publiées et jetées dans une poubelle. Et nous, les pentecôtistes, nous les ramassons, nous les survolons comme une bande de mouches autour d'une poubelle. C'est vrai. Oh, miséricorde, ce qu'il nous faut, c'est revenir à notre premier amour, revenir à la Pentecôte. Oh, je ferais mieux de s'éloigner de ça. Très bien. Mais vous comprenez, abandonner ce premier amour. Le verset 4, le verset 5 maintenant. Un avertissement. Le verset, un avertissement. Souviens-toi. Et repens-toi. Voyez? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où tu es venu, de la Pentecôte. Tu es tombé à l'endroit où tu es maintenant, rétrogradant. Et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Retourne à la Pentecôte, sinon je reviendrai vers toi et j'ôterai ton chandelier de S.A. Vous voyez qui c'est, n'est-ce pas? Sa place, à moins que tu ne te repentes. Autrement dit, si vous avez un pasteur rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, que vous essayez de le garder à votre main en disant, « Eh bien, s'il doit quoi que ce soit sur notre robe de chorale, s'il dit quoi que ce soit sur notre maquillage, nous allons simplement l'excommunier. Ne vous inquiétez pas, Dieu le fera avant vous. » Il va vous prêcher aux pierres dans la rue avant de faire des compromis avec ce genre de choses. Si vous avez un pasteur qui vous dit vraiment la vérité, vous devriez honorer Dieu et rester dans l'esprit et adorer Dieu, réalisant que vous allez être perdu si vous ne le faites pas. Voyez? Mais les gens aujourd'hui vivent comme s'ils allaient, comme si c'était la seule chose qu'il y avait. Vivre ici sur terre, c'est tout. Vous ne réalisez pas que vous avez une âme qui va partir d'ici, aller quelque part, et vous savez votre destination ici même, la façon dont vous vivez, et la façon dont vous agissez, gardant des rancunes, de la méchanceté et tout, et ensuite courir à l'église. Oh, miséricorde, fiu, honte à vous. Vous jetez l'opprobre sur la cause de Christ. N'est-ce pas vrai? Nous le faisons-nous pas? Les contrementiers ne font pas de mal à l'église? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les prostituées qui font du mal à l'Église. Ce sont les gens qui prétendent être chrétiens qui font du mal à l'Église. Nous savons ce que les contrebandiers, qu'est la prostituée. Quand nos cœurs s'habillent comme nos sœurs s'habillent comme des prostituées, c'est différent. C'est ce qui fait mal à l'Église. Quand l'homme boit comme le contrebandier, eh bien là, c'est ce qui jette l'opprobre sur l'Église. Ils prétendent être chrétiens, ils font cela. Les gens regardent à ceux qui prononcent, que celui qui prononce même le nom de Jésus-Christ s'éloigne du péché, voyez? Éloignez-vous-en. Oh, nous sommes si loin, frère. Moi, vous, nous tous, nous sommes loin d'être ce que Christ veut que nous soyons. Et ici même, en ce jour, il est temps de mettre de côté tous les péchés qui nous enveloppent si facilement et de courir avec patience la course qui s'ouvre devant nous, prédicateurs. C'est vrai, frère. C'est tout à fait vrai. Souviens-toi et repens-toi, sinon j'ôterai la lumière de l'étoile de sa place. Quelle est sa place? Dans l'Église. Mais si tu ne te repens pas et ne retournes pas là où tu étais au départ, je t'enlèverai immédiatement ton pasteur et le ferai sortir de sa place. Je le mettrai ailleurs où je refléterai ma lumière qui brille. N'était-ce pas solennel? Il est temps que les Églises se repentent. Il attend que la Pentecôte dégage un grand nombre de ces petits érudits raffinés de la chair et fasse venir le prédicateur à l'ancienne qui vous dira la vérité. Non pas de tapoter et d'utiliser l'Église pour un gagne-pain ou un gros salaire et quelque chose comme ça, de la psychologie, quelques courses de chevaux, des soupes populaires et tout le reste. Il est temps de revenir à l'Évangile. Peu importe combien vous êtes petit, là où deux ou trois sont réunis, je serai au milieu d'eux. Repens-toi, sinon je viendrai j'ôterai ton chandelier. Je l'enverrai au loin, ailleurs faire briller sa lumière. Maintenant, le sixième vrai. Voilà celui avec lequel nous aurons à avoir des problèmes. Maintenant, à moins que tu ne te répondes, il reviendra et enlèvera ton pasteur au loin. Tu as pourtant ceci. Souviens-toi maintenant. Oh, ne manquez pas ceci. Ça va relier tout le reste ensemble, jusqu'à ceci ou l'âge où nous sommes maintenant. D'abord, est-ce que tout le monde se sent bien? Êtes-vous pressé? Bon, très bien. D'accord, supportez-moi juste un peu plus longtemps. Alors, bon, merci. Tu as pourtant ceci. Ils avaient quelque chose à l'époque, n'est-ce pas? Or, qu'avaient-ils? C'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Tu haïs les œuvres des Nicolaïtes. Assis dans mon bureau d'études aujourd'hui, j'ai écrit quelque chose là-dessus. Je veux que vous écoutiez attentivement. C'est environ deux pages ici. Le verset 6, la louange et l'approbation. C'est-à-dire Dieu et l'Église qui sont d'accord sur une chose, qu'ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. La vraie vigne, l'Église véritable qui était dans cette Église d'Éphèse. Maintenant, souvenez-vous, chaque Église a ses gens formalistes et chaque Église a ses gens spirituels. Ce sont les jumeaux qui naissent à chaque réveil et qui vivent dans chaque Église. Ils ont commencé à cet âge précis et finissent à cet âge. Puis finalement, le formalisme a pris le dessus dans l'âge de Thyatire et Luther l'a fait sortir de nouveau. Et maintenant, cela revient de plus belle encore. Pouvez-vous voir cette religion formaliste? Il n'y a pas de différence entre cela et le catholicisme. C'est la même chose. Toutes les organisations s'en vont à l'abattoir avec cela. Dieu n'a jamais organisé son Église. C'est exactement ce qu'ils essayaient de faire ici. Et observez, voyez maintenant, ce n'est pas vrai, juste pour vous montrer à quel point une organisation est maudite. C'était étranger pour la nouvelle Église, l'Église du Nouveau Testament, voyez. Mais tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. La vraie vigne détestait les œuvres formalistes des Nicolaïtes. tout comme Dieu. Ce qui était des œuvres dans l'église d'Éphèse, dans l'église des Éphésiens, est devenu une doctrine dans l'église de Pergame. À Éphèse, la première église, c'était une œuvre. Dans l'église suivante, c'est devenu une doctrine. Pouvez-vous le saisir? Pouvez-vous le comprendre maintenant? C'était une œuvre à Éphèse. Et observez ici à Pergame, c'est devenu une doctrine. Ça venait de commencer ici sous forme embryonnaire. Bon, dans une minute, on va découvrir ce que c'était. Voici les loups de Paul. Les œuvres des Nicolaïtes. Et que décomposons ce mot et trouvons ce que nous avons avant d'aller plus loin. Le mot Nicolaïte met un peu un trait étranger. J'ai tous les lexiques grecs que j'ai pu trouver. Nicolaïte vient du mot Nico, N-I-C-K-O. Attendez, je crois que je l'ai écrit ici. N-I-C-K-O, Nico, qui signifie conquérir ou renverser. Nicolaïte. Renverser ou conquérir les laïcs. Ce qu'ils essayaient de faire ici, c'était d'essayer de prendre l'Église où Dieu avait des pasteurs et l'Esprit de Dieu se mouvait par des dons dans l'Église du Dieu vivant. Et ils ont commencé une doctrine disant qu'ils allaient avoir des prêtres, des évêques, des papes et ainsi de suite. Dieu a dit qu'il détestait cela. Il déteste encore cela aujourd'hui. Nicolaïte, Nico, vaincre ou renverser les laïcs. Les laïcs sont l'Église. Combien savent que les laïcs sont l'Église? Très bien. Renverser ou conquérir ou prendre la place des laïcs. En d'autres termes, prendre tout le côté sacré, toute la puissance de l'Église et le placer sur les prêtres. Que l'Assemblée vive comme elle veut, mais le prêtre est celui qui est saint. Enlever le Saint-Esprit aux gens avec les signes et les prodiges qui les suivent, leur enlever ça et leur donner un sacerdoce saint. Enlever le Saint-Esprit et l'échanger contre un sacerdoce. Vous voyez ce que c'était? C'est finalement devenu dans cette église-ci, c'était des œuvres, et plus loin, c'est devenu une doctrine, et à Thyatire, cela a pris le pouvoir. Et quand Luther est arrivé, ça ne pouvait pas rester comme ça. C'est reparti et a repris le pouvoir à nouveau. Des évêques, des cardinaux, des archevêques. Qui dans le monde est le chef de l'Église de Dieu si ce n'est lui-même? Amen. Phew. Maintenant, je me sens religieux. Le Saint-Esprit a été envoyé pour gouverner l'Église. Pas seulement le prédicateur, toute l'Assemblée. Pas seulement le prédicateur qui est saint, c'est toute l'Église qui a le Saint-Esprit. Et au lieu de cela, au lieu d'avoir l'Esprit pour y parvenir, ils ont pris une petite hostie, un craquelin et du vin, et ils ont appelé ça la Sainte Eucharistie, ce qui signifie Saint-Esprit. Comment donc un craquelin et un peu de vin peuvent-ils être un esprit? Maintenant, si c'est comme ça, vous devez lire Acte 2 comme ceci. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, voici qu'un prêtre romain se présenta sur le chemin et dit, « Tirez la langue. » Et il déposa l'hostie et but le vin. Puis il dit, « Maintenant, vous avez le Saint-Esprit. » Bon, là, nous trouvons ça terrible, ça l'est. Bon, avançons un peu. J'ai été ordonné dans l'Église baptiste, prenons les baptistes. Ah oui, les méthodistes, que devons-nous faire? Si tu confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu es sauvé. Le diable croit qu'il est le Fils de Dieu et ça le fait trembler. Il y croit probablement plus que beaucoup de membres d'Église. Le diable croit la même chose et il tremble. Parce qu'il sait qu'il est condamné. Bon, prenons-le sous la forme méthodiste. Et ils disent que Jean ne baptisait pas, mais qu'il aspergeait. Ils ont dit qu'il y avait beaucoup de marmottes dans le pays et l'eau inondait leur terrier aussi. Ils disaient une coquille de moule pour vider un terrier de marmottes. Et c'est ça qu'ils prêchent. Ils puisaient un peu d'eau à l'aide de cette coquille de marmotte ou plutôt de cette coquille de moule dans le terrier de marmottes et ils aspergeaient les gens. C'est ridicule. Oh, frère. Eh bien, nous allons prendre ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, d'un même accord. Et le pasteur vint et prêcha un beau sermon, puis il dit, « Donnez-moi la main d'association et nous inscrirons votre nom dans le livre. » Ça ne sonne pas juste, n'est-ce pas? Vous pourriez trouver ça, vous ne pourriez pas trouver ça dans un almanach, ils connaissent mieux que ça. L'ancienne édition anniversaire de l'almanach des dames est plus exact que cela, je le serais. Eh bien, qu'est-ce qui a mené à cela? C'est les Nicolaïtes qui ont entraîné un groupe d'hommes à déformer l'écriture pour produire une dénomination qui ne peut pas laisser Dieu entrer. C'est là qu'elle est morte. Puis il a dit, tu es mort, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Beaucoup d'entre eux sont morts, mais ils ne le savent pas. Moi et mon frère étions à la pêche, nous étions des petits garçons d'ici, j'avais attrapé une vieille tortue serpentine, je lui ai coupé la tête, je l'ai décroché de la ligne, je ne voulais pas jouer avec cette chose aussi, je l'ai jeté sur la berge, et mon petit frère est arrivé, il a dit, qu'as-tu attrapé tantôt? Une tortue, qu'est-ce que tu en as fait? Voilà, il se trouve là avec sa tête gisant comme ça, il s'est approché jusque-là, il a dit, elle est morte, bien sûr, sa tête séparée de son corps, elle doit être morte. Il a ramassé un bâton, il était sur le point d'atteindre la tête de cette tortue pour la jeter dans la rivière, mais quand, dans le ruisseau, et quand il l'a fait, la vieille tortue a attrapé le bâton, vous savez, elle va essayer de mordre pendant une heure ou deux. Il a sursauté, il a dit, hey, je croyais que tu as dit qu'elle était morte. Il a dit, elle l'est. Eh bien, elle ne le sait pas, non. Alors, c'est le cas de beaucoup de gens. Mort, ils ne le savent pas. Des Nicolaïtes, oh là là. Oh, il a dit, tu haïs cela. Incluant tous les bons prêtres saints, le saint cardinal, le saint évêque. Et certains de vous, pentecôtistes, laissez le surveillant général venir par ici. Le surveillant général, lui, il vous dira si vous pouvez avoir le service de guérison ici ou pas. Ah ah. Alléluia! Le Saint-Esprit est celui qui prononce cela ou pas. La parole éternelle de Dieu. Eh bien, frère Branham, nous croyons que la Bible enseigne le baptême au nom de Jésus. Mais le surveillant général a dit que si nous commencions cela dans notre église, il nous mettrait tous à la porte. Allez-y. C'est vrai. Je préfère être chassé d'ici que d'être mis à la porte là-bas. Ainsi, si vous retranchez quoi que ce soit d'ici, vous allez être chassé de toute façon. Alors, autant vous faire chasser d'ici. Si vous chassez à coups de pied d'ici, vous vous retrouverez là-bas. Alors, c'est juste la même chose. Donc, restez avec cela. Nous désirons être en ordre. Oh là là! C'est quelque chose de sérieux, mon frère. Il faut que nous mettions cette chose en ordre. Nous ne pourrons jamais avoir d'église tant que Dieu n'aura pas une fondation sur laquelle la faire reposer. Il ne construira jamais son église sur un tas d'absurdités. Il doit venir selon sa parole, sinon il ne viendra pas du tout. Juste sur sa, selon sa parole. Quelqu'un, il n'y a pas longtemps là-bas, a dit, « Frère Branham, venez donc à la réunion Chautauqua. » Combien assistait à la réunion Chautauqua? Eh bien, dites donc, un tiers de l'église ou plus était à Chautauqua. Ce qui, maintenant, cet homme s'est avancé cet après-midi-là et vous l'avez tous entendu sans avoir que j'en serais informé. Dieu peut révéler dans une chambre là-haut ce qu'ils disent là-bas et vous savez, c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il a dit, bon, frère Branham, c'est un serviteur de l'Éternel. Quand l'Esprit est sur lui, c'est un prophète. Oui, il est certain. Dieu lui dit ce qu'il en est, ce qu'il sera, mais sa théologie, n'écoutez pas ça. Quelle idée saugrenue! Comment un homme peut-il dire ça? Mais voyons, je n'ai pas... Eh bien, même si vous ne saviez pas faire la différence entre les grains d'haricots et les grains de café, vous connaîtrez mieux que ça. Comment donc pouvez-vous penser une chose pareille? Pourquoi? Eh bien, le mot même « prophète » signifie un révélateur divin de la parole. Comment pouvez-vous? La parole du Seigneur est venue au prophète. Je n'ai jamais dit j'en étais un. Eux l'ont dit. Mais voilà, voyez, comment un homme soutenir une petite doctrine d'église quelque part, parce que leur organisation n'est pas d'accord avec cela, vendant votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles, Ésaü, vous, espèce d'hypocrite misérable, c'est vrai, vendant votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles, pour un plat de dénominationnel, un plat d'organisation que Dieu déteste. Vous n'avez qu'à vous rappeler que lorsque vous parlez d'organisation, Dieu haït cela. C'est la chose qui a séparé les frères, qui a brisé. Il y a beaucoup de méthodistes, de baptistes, de presbytériens ce soir qui aimeraient avoir de la communion fraternelle autour de la table de Dieu. Mais s'ils le font, ils se font mettre à la porte dès qu'ils commencent à y aller. C'est tout à fait vrai. Maman en était membre, ils ne sont que des petits-enfants pour commencer. Oh là là! Peu m'importe de quoi maman était membre, maman a vécu dans toute la lumière de son époque, mais vous vivez à une autre époque. Il y a environ 300 ans, la science démontrait à l'aide d'une balle révolutionnaire autour d'un globe que si un véhicule roulait à la vitesse vertigineuse de 48 km/h, il serait soulevé de terre et transporté dans l'espace par la gravitation. Pensez-vous que la science croit ça aujourd'hui? Ils vont à plus de 3000 km à l'heure. Ils ne retournent pas dans le passé pour voir ce qu'ils ont affirmé. Ils regardent en arrière pour voir ce qu'ils pourraient comprendre de l'avenir. Mais l'Église, elle veut toujours regarder en arrière, voir ce que Wesley a dit, ce que Moody a dit, ce que Sankey a dit. Tout est possible à ceux qui croient. Regardons en avant. Il n'y a qu'une chose dans la Bible qui regarde en arrière. C'est vous, quel genre d'animal regarde toujours en arrière? La forme de vie la plus basse qui soit? Combien savent quelle est la forme de vie la plus basse qui se meut? Une grenouille. Une grenouille est la forme de vie la plus basse qui soit, et l'homme est la forme de vie la plus élevée qui soit. Et une grenouille, ça regarde en arrière. Je n'aime pas cette vieille forme de vie misérable. Je veux regarder en avant, croyant et ayant confiance, marchant dans la lumière, comme lui est dans la lumière. Amen. Comme lui fait briller la lumière. Une fois, j'étais dans le Kentucky pour tenir une réunion. Un vieil homme est venu. Il a dit, « Oh, je ne crois pas à cette histoire de guérison. » J'ai dit, « Bon, c'est correct. Vous êtes Américain. » Il a dit, « Je ne crois en rien, à moins de le voir. » Et j'ai dit, « Bon, c'est correct. » Il a dit, « Maintenant, je n'ai rien contre vous, mais je ne crois pas ce que vous dites. » J'ai dit, « C'est votre privilège américain. Vous n'êtes pas obligé de le croire. C'est que je n'accepte jamais rien, à moins de le voir clairement. » Eh bien, maintenant, c'est bon, vous devez venir du Missouri. Il a dit, non, je suis un Kentuckien. Ce n'est pas l'honneur du Kentucky, dis-je. Mais de toute façon, j'ai dit, c'est comme ça que vous pensez, allez-y. Il a dit, comment allez-vous rentrer chez vous? Il a répondu, je vais traverser la colline, j'habite de l'autre côté. Eh bien, venez avec moi, quelqu'un de bien. Il a dit, venez à la maison avec moi, passez la nuit, frère Bonhomme. J'ai dit, j'aimerais que ce soit possible, frère. Mais j'ai dit, je vais juste ici avec mon oncle. Il a dit, vous allez embarquer? Il a répondu, il faut que je traverse la colline là-bas comme ceci, puis je redescende dans un vallon, puis je remonte. Vous savez comment c'est là-bas? Comment allez-vous faire pour vous rendre là-bas? Je vais suivre le sentier, là. Allons donc, j'ai dit, vous ne pouvez même pas avoir votre main devant vous. J'ai dit, comment allez-vous faire pour y aller? J'ai une lanterne. Bon, comment? Que faites-vous? Allumez cette lanterne et vous marchez avec elle? Il a dit, oui, monsieur. Quand vous allumez cette lanterne, pouvez-vous la tenir haute comme ça? J'aimerais voir votre maison. Il a dit, vous ne pouvez pas la voir. J'ai dit, alors comment allez-vous faire pour vous rendre là-bas? Oui, il a dit, je vais juste allumer la lanterne et à mesure que je vais avancer, je vais marcher avec la lumière. J'ai dit, c'est exactement ça. Amen. Marchez simplement dans la lumière. Continuez simplement à marcher. Ne restez pas immobile. Vous n'arriverez jamais nulle part. Si vous avez été sauvé, marchez vers la sanctification. Vous dites, comment faire pour y arriver? Continuez simplement à marcher. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit vient après la sanctification? Comment puis-je l'obtenir? Continuez à marcher dans la lumière. Est-ce que les signes les produisent les miracles? Continuez simplement à marcher dans la lumière. Voyez, continuez simplement à avancer. Chaque fois que vous faites un pas, la lumière va lui juste un peu plus loin devant vous. Parce qu'il est toujours devant lui. Il ne pousse pas, il conduit. Il est la lumière. Oh, je suis si heureux de ça, pas vous. Il a la lumière en lui, il n'y a pas de ténèbres. Tu es les œuvres des Nicolaites. C'est devenu une doctrine. Voyons un peu ce que Paul a fait. À quelle église? Qui donc a fondé cette église-là? Paul, à Éphèse. Revenons maintenant dans Actes, chapitre 20, juste un instant. Dans Actes, au chapitre 20, et voyons ce que Paul... Croyez-vous que Paul était un prophète? Bien sûr qu'il l'était. Certainement qu'il l'était. Vous vous souvenez de cette nuit-là, la vision sur la mer déchaînée et tout? Bon, tous les détails. Donc, le 20e chapitre de Saint... de l'Acte. Et commençons donc à partir du 27e verset. Écoutez bien alors que nous lisons. Alors c'est Paul, un prophète, annonçant d'avance ce qui arriverait. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Cet homme béni. Oh, ce jour-là, je veux me tenir là et regarder ce martyr être couronné. Si on peut encore pleurer là-bas, alors je pleurerai, je pousserai des cris de joie en voyant Paul. De voir Paul, ce grand apôtre, revêtu de sa robe éclatante de splendeur, je suis certain que les cris de joie retentiront quand nous arriverons tous là-bas. Pas vous? Bon, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Est-ce exact? Ceci dit, vous les chrétiens, regardez par ici, je veux vous demander quelque chose. Qui a donné l'ordre au peuple qui avait été baptisé d'une autre manière que dans le nom de Jésus-Christ de venir et d'être baptisé de nouveau? Il a annoncé tout le conseil, pas vrai? Eh bien, qu'est-ce que Paul a dit? Je crois que c'était, je ne suis pas sûr si c'est dans Thessaloniciens, le premier chapitre, au verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui-ci, que de commander aux hommes d'être rebaptisés au nom de Jésus-Christ et l'évangile que Paul a prêché. Quand un ange du ciel, pas encore, encore moins un évêque, un cardinal, un surveillant général ou un pasteur ou autre, si un ange descendait du ciel et vous annonçait un autre évangile que celui-ci, qu'il soit anathème. C'est vrai. C'est juste ce qu'il a dit. C'est dans Galates 1.8. Je viens tout juste d'y penser. Très bien. Galates 1.8, si vous voulez le noter, voyons ce que Paul a dit. Or, il dit ici, donc le 27e, je crois que c'est le 27e verset, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Maintenant, écoutez, c'est une prophétie. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Qui a fait l'acquisition? De quel sang s'agit-il? La Bible a dit que c'était le sang de Dieu. Dieu avec son propre sang. Est-ce vrai? Faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. La Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Le saviez-vous? Certainement. Son sang le fait. Très bien. Il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous, faites attention, cet homme pourrait parcourir cela du regard et voir venir la chose, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Des années plus tard, comme un groupe d'hommes qui voulait former une organisation et enlever le caractère sacré et le Saint-Esprit de l'Église afin de le placer sur les évêques, les papes, les prêtres, pour qu'eux soient saints et que l'Assemblée vive de la manière qu'ils le veulent, et ils paieraient les prêtres afin qu'ils prient pour les faire sortir de l'enfer et tout le reste comme ça. C'est du Nicolas. Et Dieu a dit, je haïs cela. Maintenant, écoutez, laissez-moi voir, puis vous dites, Dieu a dit qu'il haïssait ça. Bon, voyons si c'est le cas. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Dieu déteste une organisation, pas vrai? Ceci dit, vous savez exactement ce qu'ils allaient faire et vous constatez ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardez bien au fil des âges de l'Église si ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils détestent une organisation. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc, les loups dont parlait Paul sont devenus les Nicolaïtes. Ils essayaient de former un sacerdoce comme le sacerdoce lévitique qui n'avait rien à voir avec la doctrine du Nouveau Testament. Amen. Le mot « Nico », le mot grec « Nico » signifie « conquérir »,« vaincre ». Vaincre quoi? Les laïcs, le Saint-Esprit. Ils ont sorti le Seigneur Jésus ressuscité de l'Église, ainsi que les signes et les prodiges parmi les croyants, et ils ont placé des hommes et ont été élus pour devenir un pape ou un charnel, cardinal ou un surveillant qui tente de retirer le Saint-Esprit aux laïcs pour le donner à une classe dite la Sainte Classe des Hommes, les situant au-dessus des laïcs. On ne les appelle pas pasteurs, ce qui signifie berger, mais pères. Alors que Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Vous voyez cette chose méchante? Et qu'avons-nous fait? Oh, si on pouvait s'arrêter, si toutes nos réunions du soir n'étaient pas si chargées, je prendrais celle de demain soir pour vous parler du 12e chapitre de l'Apocalypse et vous montrer cette vieille femme prostituée qui est assise là-haut, la grande prostituée, et elle, la raison pour laquelle elle était, c'est parce qu'elle s'était livrée à l'impudicité avec Dieu, qu'elle se disait veuve, mais aussi parce qu'elle était la mère des impudiques. Est-ce vrai? Or, nous savons que c'est Rome parce qu'elle est située sur cette colline et tout concorde exactement. Un homme y réside et le nombre de la bête et ainsi de suite. Nous savons tous de qui il s'agit d'après les enseignements précédents. Mais ce qui est attristant dans tout ça, c'est qu'elle était la mère des impudiques. C'est ici même que tout a commencé par elle. Elle a commencé à Rome avec un groupe de chrétiens, de soi-disant chrétiens. Écoutez, que Dieu m'aide à rendre cela clair. un groupe de chrétiens dans une église comme celle-ci. Ils sont devenus formalistes et indifférents. Se sont retirés et ont formé une organisation. Et puis, à l'âge des ténèbres, ils se sont unis à l'État. Puis l'État et l'Église ont formé quoi? L'Église chrétienne. On l'appelait la Sainte Église catholique. Le mot catholique, est le mot signifie universel. La grande Église chrétienne universelle. Et il appelait hérétiques les gens qui parlaient en langue, qui poussaient des crises et guérissaient les malades et tout le reste. Et finalement, cela est devenu si contraignant que si quelqu'un qui était supplié à adorer ainsi, il était jeté dans la fosse aux lions, s'il ne voulait pas embrasser le catholicisme. Cela a duré des centaines d'années au temps de la persécution. Mais cette Église a subsisté. On ne peut pas la tuer. Dieu a dit qu'elle subsisterait jusqu'à la fin et que là, il allait lui donner une couronne de vie. Elle a passé au travers de ses âges de persécution. Ensuite est venu Martin Luther pour poursuivre cet âge. Il a tourné l'Église vers la justification. Que s'est-il passé quand Luther est mort? Ils en ont fait une organisation. Ils en ont fait une Église luthérienne avec une doctrine. Après en avoir fait une organisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné un droit d'aînesse au sein du romanisme. À nouveau, c'est tout à fait exact. Alors le Saint-Esprit s'est retiré de là et Wesley a vu cela. Puis Wesley, Whitfield, George Whitfield et beaucoup d'autres, et Abbsbury et beaucoup d'autres d'entre eux étaient de grands revivalistes. Ils ont sauvé le monde en ce temps-là. Ils ont eu un réveil dans l'âge de Philadelphie qui a sauvé l'Angleterre, de même que les États-Unis. Ils tenaient des réunions, ils les expulsaient, on les appelait des exaltés. Vous, les méthodistes, vous avez fait cela. Ils tombaient par terre sous la puissance de Dieu et vous leur jetiez de l'eau au visage et les ont entiers. C'est vrai. Ils étaient si secoués par cela qu'ils disaient, ils ont la tremblotte. Ils avaient des gens qui étaient secoués et tremblaient sous la puissance du Saint-Esprit. C'est de l'histoire méthodiste. De là sont sortis les Quakers et ainsi de suite et qui ont maintenant organisé. Ils ont fait ce méthodiste primitif et ce genre de méthodiste-ci et ce genre de méthodiste-là. Et c'est au point civil que les gens méthodistes veulent retirer le mot « saint » de leur livre de chant. Ici, l'autre soir, dans une émission de télévision, ma mère m'a appelé. Il y avait un pasteur méthodiste ici même en Indiana qui enseignait le rock and roll dans l'Église. Il disait « C'est dommage que nous n'ayons pas considéré ce bel art qui entre dans l'Église. C'est le diable dans un faux prophète. » C'est vrai. Je ne veux pas vous blesser, mes frères. C'est la vérité de Dieu. Je préfère vous mettre un peu en colère de cette façon et vous porter à étudier l'Écriture et peut-être vous mettre en règle avec Dieu plutôt que de vous perdre à la fin. Si je peux, vous m'aimez pas maintenant, mais un jour, vous mettrez vos bras autour de moi en disant, « Frère Branham, c'est la vérité. C'est ici, juste ici. Ils entrent là-dedans. C'est là. C'est juste là. La Bible a dit qu'il le ferait cela. » Puis de Wesley, si Wesley a fait cela, les pentecôtistes ont continué. Ils ont eu la restauration des dons, commençant à parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, tout comme un grain de maïs qui sort du sol. La première chose, c'est qu'il pourrit. Puis il produit quelques pousses. Alors, ça, vous pensez que vous avez un champ de maïs. Cette pousse grandit et produit une aigrette. Cette première pousse était luthérienne. L'aigrette, c'était quoi? Des méthodistes. Le pollen, l'amour fraternel, l'évangélisation, le pollen qui sort et va vers les autres. Eh bien, la nature même proclame ces âges de l'Église. Les méthodistes sortant du chaos, ou je veux dire les luthériens sortant du chaos, le méthodiste libérant son amour fraternel et le jour de l'évangélisation et le jour des missionnaires, le plus grand jour missionnaire que le monde ait jamais connu fut le temps du méthodiste. C'est vrai, en libérant son pollen, qu'est-ce qui est sorti de là? De ce pollen est sorti un épée de maïs, les pentecôtistes, un grain tout comme celui qui avait été semé. Pas une feuille ni une aigrette, mais un grain. Et maintenant, les pentecôtistes ont des champignons partout sur ce grain, au point qu'on ne peut pratiquement plus voir le grain. Il est temps de le nettoyer. Amen. Qu'ont-ils fait? Ils ont fait la même chose, les méthodistes. L'un d'eux les a organisés, il a dit « Nous sommes les assemblées de Dieu ». L'autre, nous sommes la sainteté de la Pentecôte. Un autre, nous sommes les unitaires. Nous sommes les binitaires. Il y a tant de ceci et tant d'autres. Oh là là. Montrez un doux de chez moi, une bosse, deux bosses, trois bosses, n'importe quoi. Il y en a 60 ou 30 ou 40 organisations différentes. Qu'ont-ils fait? Ils ont renvoyé la balle dans le romanisme baptisé du baptême de l'Église catholique romaine. Je demande à tout pentecôtiste de me montrer où quelqu'un dans la Bible a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Je demande à n'importe quel évêque, cardinal, n'importe quel enseignant de me montrer où cela a déjà été fait en dehors de l'Église catholique. Et Luther l'a apporté avec lui, il a sorti le catéchisme et tout le reste de cela. Les méthodistes ont continué avec cela. Pentecôtistes, vous devriez avoir honte. Nettoyez-moi ça. Revenez à la parole, repentez-vous, ou Dieu vous enlèvera votre chandelier, la lumière que vous avez. Amen. Très bien. Ils enlèvent le Saint-Esprit en tant que conducteur et leur donne un saint ordre d'homme qui place au-dessus des laïcs. Et ne les appelez pas pasteurs, bergers. Nous sommes censés être appelés pasteurs, bergers, ce qui signifie le mot pasteur, mais père, cardinal, archevêque ou surveillant général. Ceux qui étaient intègres détestaient cette chose. Et Dieu les a approuvés et a dit, « Moi aussi, je haïs cela. » Parce qu'il est censé être le surveillant général, l'archevêque et le pape. Il travaille avec chaque individu. Pas avec une organisation, mais avec une personne. Or, étrange, mais écoutez, alors que nous arrivons à la fin, il ne nous reste qu'un verset. Nous avons ici le dogme du début du catholicisme, la succession apostolique. Combien le savent? Apostolique. Le catholique dit que le pape, aujourd'hui, est le successeur de Pierre. La succession apostolique. Pareille chose n'existe pas. Comment est-ce que votre désir charnel, sexuel, comment se fait-il qu'Ésaü et Jacob soient tous deux nés d'un saint père et d'une sainte mère et que l'un d'eux était chrétien et que l'autre était un démon? Ah oui? Comment est-ce possible? Parce que le péché est le péché et le sexe est le sexe, mais Dieu donne la naissance. Dieu nous a choisis dès la fondation du monde. Le saviez-vous? Attendez que nous arrivions à ces historiens. Regardez comment Irénée, comment il louait Dieu pour l'avoir choisi avant la fondation du monde. Combien ce Martin et tous ceux-là le louaient, Dieu, la louange. Il a dit parce que, et les gens parlant de lui disaient, il a été choisi avant la fondation du monde. C'est scripturaire. Ses frères étaient alignés avec Dieu. Mais cette vieille église sombre est passée à travers ces 1500 ans de l'âge des ténèbres, se ternissant comme une lampe qui fume maintenant la lumière. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra, dit l'Éternel. La succession apostolique, l'un après l'autre, un pape, et vous devez être dans la lignée des papes avant de pouvoir être un pape. Oh là là, c'est insensé. Les laïcs, pas les saints et les justes, mais les prêtres prient pour eux et les fassent sortir de leurs péchés, pardonnant leurs péchés, les faisant payer pour une confession. Les protestants font la même chose. Ils essaient d'être, ils tapent leur pasteur dans le dos et vivent comme le reste du monde. Ils n'en savent pas plus sur Dieu qu'ils les laissent rester dans son église et les appellent membres de son église. Ils les acceptent et leur assurent qu'ils sont sauvés. Comment ils seront déçus ce jour-là s'ils ne sont pas nés de nouveau? Sans le Saint-Esprit, vous êtes perdus. Nul ne peut dire Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. La véritable Église à Éphèse n'a pas été séduite par ses discours intellectuels et raffinés. Ils détestaient ça. Ils n'ont pas été séduits. Ils le savaient. La véritable Église ne l'a pas été. La fausse révélation que ces hommes avaient appelée les Nicolaïtes qui ne coopérait pas avec la parole de Dieu. Dites-moi où vous avez déjà vu un prêtre dans la confession enseigné ici dans la Bible? Vous avez déjà vu l'aspersion enseignée ici dans la Bible pour la rémission des péchés? Où avez-vous déjà vu quelqu'un être baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit pour la rémission de vos péchés? Où avez-vous déjà vu donner la main d'association et mettre leur nom sur le livre de l'Église là-dedans? Où avez-vous déjà vu tout ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un sacerdoce ou un clergé, qui n'est pas conforme avec la parole. Et ce sont des Nicolaites. Et Dieu a dit, je les hais. Revenez à la parole. Oh, ça, je sais que c'est fort, frère, mais je ne suis pas responsable. C'est Jésus, discutez avec lui. Une fausse révélation non conforme à la parole, mais les appelant menteurs, faux apôtres, faux prophètes. Mais la véritable Église s'est accrochée à l'enseignement originel de Paul et au baptême du Saint-Esprit avec des signes qui suivent et confirment la parole que Paul a enseignée. Amen. Montrez-moi où Dieu pourrait confirmer la parole de l'aspersion. Montrez-moi où Dieu pourrait confirmer et produire le parler en langue et de grandes choses juste en serrant la main du pasteur quelque part et en mettant votre nom sur le livre et continuant de marcher, fumer, boire, mentir, jouer aux cartes, avoir peu de plaisir, aller. Miséricorde. C'est charnel, un faux prophète, mes amis. Oui, monsieur, la voix de Dieu est la sainteté. Que cela soit connu de tous les membres du corps de Christ ici, avant que vous viviez une vie sainte, Dieu refuse votre sacrifice. Le sacrifice doit être offert par des mains saintes. C'est vrai. Le souverain sacrificateur, avant même de pouvoir entrer pour offrir le sacrifice, devait être saint et engagé, oint et parfumé et tout, avant même de pouvoir marcher dans la présence de Dieu pour offrir le sacrifice. Pas vrai? Alors comment pouvez-vous sortir d'ici et tricher, voler, faire des histoires, vous battre avec vos voisins et tout le reste, et vous conduire comme vous le faites, et ensuite venir et dire, « Oh Seigneur Dieu, loué soit Jésus, Alléluia! » Les gens disent, « Je les vois parler en langue, ça ne signifie toujours pas qu'ils ont le Saint-Esprit. » Je les entends crier, « Ça ne signifie toujours pas qu'ils ont le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est la vie. La Bible dit, « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, et brussisse. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Le soleil brille sur les justes et sur les injustes. La pluie tombe sur les justes et les injustes. La pluie vient produire la récolte de blé que nous disons et toutes les mauvaises herbes qui sont dans les champs. Si le blé a soif, alors la mauvaise herbe a soif. Et la même pluie qui arrose le blé, arrose les mauvaises herbes aussi. Le bon petit grain de blé lèvera et tête criera, « Loué soit le Seigneur, Alléluia, Alléluia, je suis si content qu'il pleuve. » La mauvaise herbe aussi criera, « gloire à Dieu, Alléluia, je suis content de l'avoir. » Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez, c'est vrai. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Septième verset, puis on termine, c'est la fin de l'âge de l'Église. Nous serons 5 minutes en retard, ou 10, juste un instant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Écoutez, mes amis, voici la manière de vaincre. D'abord, vous devez vaincre, ensuite, vous pouvez manger les fruits. C'est le vainqueur. Vous vous souvenez l'autre soir, notre enseignement d'hier soir? Jean devait entrer dans l'esprit avant de voir quoi que ce soit. Et comment ferez-vous pour le faire en disant, s'il n'est pas baptiste, je ne vais pas l'écouter. S'il n'est pas presbytérien, je ne l'écouterai pas. S'il n'enseigne pas exactement ce que mon Église enseigne, vous n'allez pas vaincre. Vous n'êtes pas encore dans l'esprit. Vous êtes tout en désordre. Entrez dans l'esprit, dites, Seigneur Jésus, je t'aime, révèle-moi maintenant tout ce que je veux. Fais-le pénétrer en moi, alors vous irez bien, c'est vrai. Remarquez, 3 fois, la Bible parle de l'arbre de vie dans la Genèse et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. L'autre jour, nous avons vu cela. Vous vous en souvenez, dimanche hier, le diable déteste chaque verset de l'Écriture, mais il déteste encore plus la Genèse et l'Apocalypse. Il attaque la Genèse à cause de son authenticité, parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il n'en était pas ainsi. La Genèse n'est pas venue de la manière dont Dieu l'a dit, quelque chose d'autre a provoqué cette création et ces choses. Puis il l'attaque comme ça, et il éloigne les gens de l'Apocalypse par qu'elle révèle Jésus comme étant Dieu et lui comme étant le diable, et il est condamné. Puis la gloire de l'Église sanctifiée retournant à Dieu et la condamnation du faux prophète et de tous ceux qui mentent et font n'importe quoi seront jetés dans l'étang de feu. Ce n'est pas étonnant qu'il les éloigne de cela. Mais rappelez-vous, les deux endroits parlent de l'arbre de vie dans le paradis. Prenons maintenant ceci, une minute, et maintenant l'arbre. Jean au chapitre 6, si vous voulez le noter, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Maintenant, souvenez-vous, nous allons maintenant utiliser ces deux poteaux comme symbole ici. Alors, juste avant de terminer maintenant. Bon, à ma droite se trouve l'arbre du jardin appelé l'arbre de vie. À ma gauche, l'arbre du jardin appelé l'arbre de la connaissance. Combien savent que la Bible dit qu'il y a un arbre de vie et un arbre de connaissance? Or, l'homme devait vivre par cet arbre de vie et ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Est-ce juste? Et la première fois qu'il l'a touché, il s'est séparé de son Créateur. Il a perdu sa communion avec Dieu quand il a pris sa première bouchée de connaissance. Bon, réfléchissez bien maintenant. Et vous qui prenez des notes, je vais vous laisser le temps pour que vous puissiez le comprendre parce que je ne veux pas que vous le manquiez. Jésus, dans Jean 6, il buvait à une source, levait les mains et tournait la chose en dérision que leur père buvait au rocher spirituel et ainsi de suite. Il a dit, « Je suis ce rocher qui était dans le désert. » Et il dit, « Tu dis ici que tu étais avant Abraham et tu n'as pas plus de 50 ans. » Et tu dis que tu as vu Abraham, on le sait maintenant que tu es fou, que tu as un démon. Voyez, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis était dans le buisson avec Moïse, le buisson ardent, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis, pas j'étais. Maintenant, qui dites que les jours du miracle sont passés, vous devriez faire dire à cette écriture, j'étais, le grand j'étais. Voyez, ce n'est pas j'étais ou je serai, mais je suis, c'est tout le temps. Il est éternel, le mot « je suis » est un éternel de tout âge, de tout temps, dans les sept chandeliers d'or, chaque église, chaque endroit, chaque cœur. Je suis, pas j'étais ou je serai, je suis en ce moment comme je l'ai toujours été, voyez, continuellement, je suis. Il dit, nos pères, nous te connaissons pas. Nous savons que tu as un démon. Nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans et Jésus, ils sont tous morts. Pas vrai? Ils sont tous morts. Mais je suis le pain de vie de Dieu venu du ciel. Si un pain de vie, si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. Cet homme donnera-t-il son corps à manger? Il dit maintenant, nous savons qu'il est fou. Le pain de vie venait de l'arbre de vie duquel il mangeait dans le jardin d'Éden. Il était l'arbre de vie. Or, si l'arbre de vie était une personne, alors l'arbre de la connaissance était une personne. Maintenant, dites que le serpent n'avait pas de semence. Si la vie est venue par l'homme, la mort est venue par la femme. Très bien, elle était l'arbre de la mort. Dès que celui-ci la souilla, ce qu'il fit, le serpent, elle dit, le serpent m'a séduit. C'est vrai, pas un serpent. C'était la plus rusée de tous les animaux. Il était entre le chimpanzé et l'homme. On ne peut pas croiser un animal avec une femme, ça ne marchera pas. Mais ce type-là, oui, il était le chaînon qui la suivait. Et Dieu mit une telle malédiction sur lui qu'il le fit ramper sur son ventre, sans jambes. Il prit chacun de ses os et l'échangea de tout ce qui lui ressemble à un homme. La science essaie de le déterrer dans un champ, c'est caché dans les mystères de Dieu. Au milieu du paradis de Dieu, voilà votre révélation. Elle enfanta son premier fils, Caïn. Est-ce vrai? Le fils de Satan. Fils de Satan. Si ce n'est pas le cas, d'où viendrait ce mal? D'Adam, qui était le fils de Dieu? C'est venu du diable, son père. Il l'a tué. Le premier meurtrier fut le diable, le fils du diable. Regardez ce qui s'est passé après cela. Regardez la descendance de Caïn. Tout au long de la génération qui suivit après Caïn, tous étaient des scientifiques et de grands hommes. Lisez la Bible. Ils construisaient des maisons, ils travaillaient le métal et étaient des scientifiques. Mais tous ceux qui venaient de Seth, après qu'Abel fut mort, un type de Jésus qui est mort, Abel mourut et Seth prit sa place. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Sa descendance était d'humbles paysans, des bergers sont sortis de lui. Jésus a dit, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts, mais je suis ce pain de vie. » Quel pain de vie? De l'Éden. Un homme peut manger de ce pain et ne jamais mourir. Maintenant, Dieu a mis un ange autour de cet arbre de vie pour le garder afin que personne ne le touche, qu'il ne mange cet arbre et vive pour toujours. Est-ce vrai? Parce qu'ils ont dû continuer de vivre de cet arbre et mourir. Est-ce juste? Parce que tant qu'ils en mangeaient, ils mouraient. Et tout aussi sûr que vous mourrez parce que vous mangez de cet arbre de la connaissance. Bon, jetons un coup d'œil à cet arbre de la connaissance maintenant. Regardez ce que cela fait. Voyons ce que cela produit. La première chose, voyons voir. Examinons une chose, l'invention de la poudre à canon. Ça tue nos compatriotes. C'est vrai. Ça entretue avec de la poudre à canon. Ça vient de l'arbre de la connaissance. Une autre chose que nous avons faite, voyons voir, nous avons inventé l'automobile à partir de cet arbre de la connaissance. Cela en tue plus que la poudre à canon ne le fait. Oh oui. Maintenant, on a une bombe à hydrogène. Dieu ne détruit rien. L'homme se détruit lui-même par sa connaissance. Mais tout ce qui appartient à Dieu, Dieu le ressuscitera. Dieu ne perd rien. Jésus l'a dit, c'est vrai. Celui qui mange ce pain a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est sa promesse. Maintenant, Dieu, ils sont bien en avance à manger de l'arbre de la connaissance et mourir. Mais aussitôt qu'ils pourraient atteindre cet arbre, ils vivraient éternellement. Et maintenant, au lieu d'un ange qui les garde éloignés de cet arbre, il les conduit vers cet arbre. Les anges des églises, les sept églises, les ramènent au nom de Jésus-Christ, qui est l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Oh là là! J'espère que vous saisissez cela. L'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu, vous pouvez tirer parti de lui et devenir fils et fille de Dieu et vivre éternellement. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Frères et sœurs, maintenant, je suis bien sûr, je vous ai déchiré, je vous ai blessé. Je ne voulais pas le faire de cette façon, voyez. Dieu le sait, mais je devais le faire de cette façon pour que vous puissiez voir où nous en sommes. Je ne crois pas qu'il nous reste beaucoup de temps à vivre. Je n'essaie pas de vous déchristianiser parce que vous faites partie d'une organisation. Ce n'est pas ça. Les gens sont victimes des circonstances. Ils ne savent pas quoi faire. Tout ce que leurs parents ont toujours fait, c'est d'aller à l'église et ces choses. Mes frères, une chose avant que nous terminions, permettez-moi de faire une déclaration de plus. Le prophète a dit, croyez-vous les prophètes? La Bible dit de les écouter. Le prophète a dit, il viendra un temps qui ne sera ni jour ni nuit, mais ce serait une sorte de jour sombre. Mais vers le soir, juste avant le coucher du soleil, la lumière apparaîtra. Est-ce vrai? Maintenant, regardez ce qu'on a eu. Bon, regardons simplement comment le soleil, où se lève le soleil, géographiquement parlant? À l'est, est-ce vrai? Se couche à l'ouest. J'aurais aimé avoir, je vais amener une carte demain pour vous le montrer. Quand le Saint-Esprit est tombé à Jérusalem, son parcours avait formé un parfait 8. Il traversait tout droit en Irlande, fait le tour directement au-dessus et va sur la côte ouest et revient de nouveau la forme parfaite d'un 8 là où l'Évangile est passé. Maintenant, la civilisation a parcouru le même trajet que le soleil. Combien ils savent? On vous l'a appris, vous le savez. La plus ancienne civilisation que nous ayons eue est la Chine. Et à partir de là, est arrivée directement de l'autre côté, dans l'Orient. Et quand le Saint-Esprit, non pas S-O-L-E-I-L, mais le Fils F-I-L-S, quand le soleil, le S-O-L-E-I-L, commencera à briller à travers le brouillard et la brume de la nuit, peu importe où se trouvera la semence, elle vivra. Car toute vie botanique vit par le soleil, nous le savons. Vous pourriez couler du béton directement sur un bain d'herbe et le printemps suivant où se trouve l'herbe la plus épaisse, juste au bord du béton. Pourquoi? C'est cette vie là-dessous. Vous ne pouvez pas cacher la vie véritable. Cette petite vie, dès qu'elle saura que le soleil, lui, par là, elle se fera un chemin presque sur un demi-pâté de maison, se faufila sous ce béton jusqu'à ce qu'elle puisse se mettre la tête dehors et louer Dieu. Vous ne pouvez pas cacher la vie. C'est exact, la vie. Quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas la cacher. Quelque chose doit crier quand vous avez la vie. Alors, toutes les choses qui sont mortes maintenant, et les petites semences sont éclatées, la pulpe est expulsée, elle est morte, mais la vie est toujours là. Puis quand le soleil commence à briller au printemps, les petites fleurs poussent et toutes pointent sa petite tête dehors à nouveau, de dessous les copeaux, des bûches, des rochers, elle se relève et revit, pas vrai? Parce que le soleil brille. Maintenant, un jour, le FILS brillera. Il est l'auteur de la vie éternelle et tout ce qui a été fécondé en lui pour la vie éternelle, il a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez ce que je veux dire? La vie éternelle sera relevée dans les derniers jours. S'il vous entend dans la mer ou vous brûle votre corps et le balance aux quatre vents de la terre, Dieu le relèvera au dernier jour. Si vous devez remplir le ventre d'un lion affamé ou aller dans une fosse enflammée qui emportera tous les 16 éléments du pétrole et des lumières cosmiques et tout ce qui est en vous, Dieu le ressuscitera. Les cheveux même de votre tête sont comptés. Amen. Dieu le ressuscitera. Bon, regardez ici. Maintenant, si chaque homme meurt à cause de la femme, alors chaque homme vit par l'homme. En participant avec la femme à ce genre de vie, vous savez que vous allez mourir. Il n'y a pas de moyen de s'en sortir, vous allez mourir. Et aussi sûr que vous prenez de cela, vous allez vivre. S'il n'y a pas moyen d'en sortir, vous devez vivre. Amen. Si cela produit une mort certaine, ceci produit une vie certaine. C'est la seule façon de la recevoir, c'est d'avoir la vie. Le prophète a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Maintenant, regardez, il dit qu'il y aurait un jour sombre qui ne serait ni jour ni nuit. C'est un jour plutôt nuageux, brumeux et froid, mais pourtant le Fils donne la lumière. Bien au-dessus de ce brouillard et de ces nuages, etc., le Fils donne la lumière. Il donne assez de lumière pour que vous puissiez marcher et voir comment vous déplacer, et ainsi de suite, mais cependant, ce n'est pas une belle journée, ce n'est pas lumineux. Vous voyez, maintenant, presque rien ne peut survivre en ce jour-là. Si vous plantez quelque chose sous un endroit où le soleil ne le touche pas, cela se flétrit. N'est-ce pas vrai? Vous, les agriculteurs, vous le savez, mettez le maïs à l'ombre ou quelque part, regardez s'il se flétrit. Fred, vous devriez savoir par votre blé, vous le mettez là, si vous avez un mauvais été, froid et pluvieux, il se flétrit. Bien, c'est ce qui ne va pas avec l'Église à travers ses jarges. Elle a été flétrie par des dénominations. Mettez votre nom dans ce livre. Nous avons eu assez de lumière pour savoir qu'il y a un Dieu. J'en suis heureux. Nous avons eu assez de lumière pour savoir qu'il y a un Christ, qu'il y a un jugement à venir. Nous avons eu la lumière. Alors, nous avons mis nos noms dans les livres. Nous avons serré la main du pasteur et ainsi de suite. Et avons fait cela. D'accord? Mais maintenant, c'est le temps du soir. Maintenant, la civilisation est allée de l'est vers l'ouest. Et maintenant, nous sommes sur la côte ouest. On ne peut pas aller plus loin. On traverse, on est de retour dans l'est. On ne peut pas aller plus loin. On est sur la côte ouest. Maintenant, la Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Maintenant, quel genre de soleil brille au temps du soir? Est-ce un soleil différent de celui qui se lève le matin? C'est le même soleil. Est-ce vrai? Bien ensuite, qu'est-ce que Dieu a promis? Maintenant, nous allons en arriver là. Retenez-le juste ici en cet âge. La Bible l'a dit, je vais le prouver, ces âges de l'Église, au fur et à mesure que nous avançons, qu'au temps du soir, une lumière paraîtra en Occident qui ramènerait le soleil de justice de nouveau avec la guérison sous ses ailes. Et les mêmes signes et les mêmes prodiges qui ont été faits ici à l'est seront faits ici à l'ouest avec un autre déversement du Saint-Esprit dans les derniers jours. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, tu le trouveras. C'est dans l'eau, mon frère, que lui, la lumière, ensevelie dans le nom de Jésus. Jeune et vieux, ou repentez-vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La lumière du soir brille. C'est bien vrai que Dieu et Christ sont un. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Le sentier de la gloire, tu le trouveras. C'est dans l'eau, mon frère, que lui, la lumière, ensevelie dans le nom de Jésus. Jeune et vieux, oh, repentez-vous. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ces lumières du soir sont venues. La même chose que Pierre a dit. Sachez donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Repentez-vous, chacun de vous, dit-il, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Laissez-moi vous dire quelque chose. Alors que je parlais l'autre jour de l'ordonnance du médecin, les gens n'aiment pas prendre l'ordonnance du médecin. S'il y a un remède qui guérit votre maladie et que vous refusez de le prendre, ce n'est pas la faute du médecin si vous mourrez. Non, monsieur, c'est votre faute parce que vous avez refusé de le prendre. Et maintenant, si le médecin rédige une ordonnance et vous l'apportez à un pharmacien charlatan et qu'il y met quelque chose qui ne devait pas s'y trouver, ça vous tuera aussi. Est-ce vrai? Ce médecin a étudié la chose au point qu'il sache qu'il y a un certain pourcentage de poison dans l'ordonnance pour tuer les microbes qui se trouvent dans votre corps et qu'il y a assez de contre-poison pour contrecarrer le poison pour que cela ne vous tue pas. Et ça doit être équilibré. Si vous mettez trop de contre-poison, cela n'aidera pas le patient. Et que vous mettez trop de poison, cela le tuera. Il faut que ce soit équilibré. La question était, n'y a-t-il pas de bon en Galahad? N'y a-t-il pas de médecin là, dit le prophète? Pourquoi donc la maladie de la fille de mon peuple n'est pas guérie? Qu'est-ce qui se passe avec l'Église? Quel est le problème que nous n'ayons pas tant d'Églises malades? Parce que nous avons eu des pharmaciens charlatans qui ont mal prescrit l'ordonnance, c'est vrai. Il n'a jamais dit Père, Fils, Saint-Esprit. Que dit l'ordonnance? Voici Pierre. Combien savent qu'il avait les clés du royaume? Jésus l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? En d'autres termes, il avait la plume à l'encre pour l'ordonnance. Lorsqu'ils entendirent tout ce bruit, ils criaient, hurlaient, parlant en langue et passaient de bon moment et ils dirent, ces hommes sont pleins de vin doux. Pierre a dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront et je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et en bas sur la terre, du feu et une vapeur de fumée. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera pas sauvé, sera sauvé. Il a dit encore à propos de David, le patriarche David l'avait vu en avance. Il dit, aussi ma chair reposera dans l'espérance, parce qu'il ne laissera pas mon âme dans le séjour des morts, il ne laissera pas son sein voir la corruption. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Mais lui, étant prophète, il a vu la résurrection de Christ. Sachez donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Lorsqu'ils entendirent cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et dire, homme et frère, ou bien docteur Simon-Pierre, prescris-nous l'ordonnance. Comment pouvons-nous obtenir ceci? Nous voulons un remède contre le péché. Oh, maintenant regardez ce qu'il a dit. Alors, vous allez découvrir où ces églises sont sorties du sentier. Il a dit, attendez une minute, je vais prescrire l'ordonnance, et ce sera une ordonnance éternelle. Elle sera pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Qu'a-t-il dit? Comment l'a-t-il préparé? Comme les catholiques l'ont fait, comme les baptistes l'ont fait, comme les méthodistes l'ont fait. Chacun d'entre eux y a ajouté quelque chose ou en a retranché quelque chose. Comme les pentecôtistes, ils ont ajouté ou retranché. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Une ordonnance éternelle. C'est pour vous et pour vos enfants. Elle durera tout au long de chaque âge de l'Église. Donnez-la à chacun d'entre eux. Ô Dieu, purifie mes mains. Purifie mon cœur, Seigneur. Puisse, si cela me fait perdre tous mes amis, laisse-moi donner l'ordonnance comme le docteur l'a dit de le faire. C'est pour ça que vous avez tant d'Églises mortes, tant de membres morts. Vous ajoutez du contrepoison et vous en retirez juste assez pour que l'ordonnance ne soit plus du tout la même. Elle ne guérira plus rien. Vous serrez les mains, vous joignez aux églises et aspergeant aux miséricordes. Ce n'est pas l'ordonnance, c'est la mort. Si vous voulez la vie et vous voulez le Saint-Esprit, suivez ce que Dieu a dit de faire. Prenez l'ordonnance. C'est exactement la façon qu'il a dit. N'y ajoutez rien, n'en retranchez rien. Puis l'Apocalypse renchirait en disant, si quelqu'un en retranche, il y ajoute quelque chose, de même sa part sera retranchée du livre de vie. Oh là là, c'est le docteur en chef. Oh, je l'aime. Pas vous? Oh, dans ce grand âge, l'âge d'Éphèse, dans cette hérésie a commencé à s'infiltrer pour former des organisations et les pasteurs et les diacres, ou pas les diacres, mais les pasteurs, pas les pasteurs, mais les cardinaux, les évêques, les papes, et les surveillants de l'Église, disant que le Saint-Esprit, disant à l'Église, maintenant, vous ne pouvez pas avoir ce lit. Qui est le patron de toute façon? C'est ce qu'on a demandé à Pierre une fois. Ils ont dit, tu ne peux plus prêcher au nom de Jésus. Tu peux prêcher si tu veux, mais pas au nom de Jésus. Oh, le diable déteste ce nom. Pierre a dit, c'est juste pour moi de... La Bible dit, Pierre rempli de la dénomination. Ah, du Saint-Esprit. Il attendit, je vais voir le surveillant général pour voir ce qu'il me dit de faire à ce sujet. Laissez-moi vous dire, saviez-vous que les assemblées de Dieu ont un psychiatre pour juger? Ils doivent amener leur missionnaire devant un psychiatre pour voir si cet homme est mentalement capable d'être un missionnaire? Les assemblées de Dieu pentecôtistes, combien ont déjà entendu ça? Bien sûr, c'est partout. Tout le monde le sait. Bien sûr. Qui doit veiller sur le missionnaire, être le juge, le psychiatre ou le Saint-Esprit, voyez? C'est ce qui arrive en plaçant un homme, voyez? Les théories et les doctrines faites de main d'homme, attendez qu'on arrive à l'âge de la pentecôtiste. Dieu brûlera cette chose aussi sûr que le monde. Oui, monsieur, oui, en effet, et vous verrez cela s'enflammer jusqu'au bout. Mm-hmm. Exactement. Mais un jour glorieux, il viendra. Et rappelez-vous, écoutez, il y a sept âges de l'Église, est-ce vrai? Il y a sept âges de l'Église. Et souvenez-vous, quand ils sont allés à la rencontre de l'épouse, l'époux, certaines se sont endormies dans la première veille, est-ce juste? La deuxième veille, bien sûr, pas morte, endormie. Troisième veille, quatrième veille, cinquième veille, sixième veille. Et dans la septième veille, on criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Qu'est-il arrivé? Toutes ces vierges qui dormaient se sont réveillées. En ce beau matin, lorsque les morts en Christ se lèveront, sans nuages, les lumières du soir brilleront, partageant la gloire de sa résurrection, et des quatre coins du monde, les élus s'assembleront, quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. Quand l'appel retentira là-haut. Quand l'appel se fera là-haut. Quand l'appel se fera là-haut. Quand l'appel se fera là-haut, j'y serai. Sans relâche et d'un seul cœur, unissons nos efforts pour Dieu. Car bientôt le jour de grâce finira. Le repos et le bonheur nous sont réservés dans les cieux. D'où le grand appel, enfin. Que chacun, enfant de Dieu, lève les mains maintenant. Quand l'appel se fera là-haut. Quand l'appel se fera là-haut, quand l'appel se fera là-haut, quand l'appel se fera là-haut, j'y serai. Au-delà, nous nous verrons sur ce beau rivage, dans le doux, au-delà, nous nous verrons sur ce beau rivage. Aimez-vous les vieux cantiques de l'Église? Oh, à notre généreux Père céleste, nous offrirons hommage et louange pour le glorieux don de son amour et les bénédictions qui illuminent notre jour. Dans le doux, au-delà. Nous nous verrons sur ce beau rivage. Dans le doux, au-delà. Nous nous verrons sur ce beau rivage. Maintenant, serrez la main de quelqu'un autour de vous, tout autour, comme ça, c'est bien. Dites, je vous verrai, frère. Nous nous verrons sur ce beau rivage. Dans le doux, au-delà. Nous nous verrons sur ce beau rivage. Nous chanterons sur ce beau rivage. La chanson mélodieuse que tout le monde chante maintenant. Et notre esprit ne s'affligera plus. Nul soupir ne troublera notre repos. Tout le monde avec vos mains levées, dans le doux, au-delà. Oh, nous nous verrons sur ce beau rivage. Dans le doux, au-delà. Nous nous verrons sur ce beau rivage. Avec les têtes inclinées, disons ceci. Seigneur, Seigneur Jésus, je t'aime, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu rendu manifeste dans la chair pour ôter mon péché. Je ne compte pas sur mes mérites, j'en ai aucun, mais seulement je crois dans les mérites de Jésus-Christ, qui est mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi. Je l'aime. Amen. Demain soir, à 7 heures, si le Seigneur le veut, nous prendrons l'église de Smyrne, dans le doux, avec les têtes inclinées maintenant, au-delà. Nous nous verrons sur ce beau rivage, au-delà, dans le doux au-delà. Nous nous verrons sur ce beau rivage. Maintenant, doucement, tout le monde, doucement, ô à notre généreux Père céleste, nous offrirons hommage et louange pour le don glorieux de son amour dans le doux, au-delà. Nous nous verrons sur ce beau rivage. Dans le doux, au-delà. Nous nous verrons sur ce beau rivage. La réunion est terminée.